la conférence de ce soir que va nous, dont va nous parler Noël Dimarcq. Alors, je voudrais le présenter brièvement. Notre collègue d'à côté, hein, bâtiment qui n'est pas loin, à l'Observatoire de Paris, directeur de recherche au CNRS, il est directeur du CIRTE, S-Y-R-T-E, qui signifie Système de référence du temps et de l'espace. Et le but, enfin, la mission de ce laboratoire, c'est de réaliser, réaliser un système de référence pour le temps, à la fois au niveau national, c'est utile pour tout le monde de savoir à peu près se repérer dans le temps, pas seulement dans l'espace, bien que les deux soient d'ailleurs intimement liés, comme on va certainement le savoir. Et ça donne aussi, ça fournit non seulement cet aspect utilitaire pour tout le monde, mais également ça sert de système de référence pour des tests fondamentaux de la physique. On a besoin d'échelles, en particulier de repères et d'échelles de temps. Donc, il me disait, Noël, que bien entendu, cela signifie qu'il est moins théoricien qu'instrumentaliste. C'est vraiment au niveau de l'instrumentation que les choses se jouent. Il se définit d'une certaine façon comme un métrologue du temps. Et son domaine, l'outil principal, c'est l'interférométrie atomique, hein, puisque l'atome est à la fois perçu comme un corpuscule et une onde, donc on peut faire interférer ces ondes. On sait qu'en physique, l'interférométrie, faire interférer la lumière, ça conduit à des précisions absolument extraordinaires. Voilà. Dans l'histoire, dans le passé, Noël a fait sa thèse à Orsay, laboratoire d'horloge atomique, à l'horloge atomique d'Orsay. Et donc, par la suite, eh bien, ce laboratoire a fusionné avec le laboratoire jumeau de Paris pour donner ce grand laboratoire qui est maintenant le CIRTE. Voilà. Donc, maintenant, j'ai assez dit et je vous laisse la parole.
Donc c'est un plaisir vraiment d'être ici à l'IAP pour vous parler de mesure du temps. Donc c'était un petit peu dit en introduction, je vais faire l'hypothèse que le temps existe, donc je ne vais pas aborder ce sujet qui peut être très glissant, et je vais plutôt vous présenter quelques concepts, quelques techniques, puis quelques applications aussi des mesures de temps, et vous allez voir qu'on aborde un domaine où la précision est ultime, hein, puisqu'on va voir qu'on joue, entre guillemets, avec des nombres qui ont une précision de 17 chiffres, donc qui sont de très très loin aujourd'hui les mesures les plus précises de grandeur physique. Donc dans mon exposé, je l'ai découpé en trois grandes parties. Une introduction un petit peu pour expliquer déjà pourquoi le temps était couplé à l'espace. La mesure du temps était couplée à la mesure de l'espace, en particulier en utilisant des phénomènes astronomiques. Et puis après, je parlerai vraiment, ça sera le gros morceau de l'exposé, sur la mesure du temps avec des oscillateurs et des horloges atomiques, c'est-à-dire en utilisant des phénomènes périodiques. Et là, vous verrez que ça permet d'obtenir des précisions assez impressionnantes. Et puis je citerai quelques applications. Et j'essaierai de vous passer le message que, quoi que vous faites dans la journée, même sans vous en rendre compte, vous utilisez une mesure de temps plus ou moins précise. Et évidemment, je dirai quelques mots sur des applications scientifiques, en particulier sur des tests de physique fondamentale avec des horloges atomiques. Alors, commençons par les écoulements, et en particulier d'astronomie. Donc là, je vais peut-être commencer par des concepts assez simples, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va permettre de construire des concepts instrumentaux un petit peu plus évolués. Donc si vous voulez mesurer le temps, déjà vous pouvez utiliser un phénomène linéaire. Alors, qu'est-ce que c'est un phénomène linéaire? Ça veut dire que ça va être un phénomène dont un paramètre varie proportionnellement avec le temps qui s'écoule. Alors évidemment, le coefficient de proportion, à partir de la mesure de ce paramètre, on va déduire une valeur du temps mesuré. Et dans un système idéal, on voudrait que le temps mesuré soit parfaitement égal au temps réel, c'est-à-dire que la mesure du paramètre et du coefficient de proportionnalité vous informe directement de la mesure du temps. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec des sabliers, typiquement, c'est ce qu'on fait avec des clepsydres. Et évidemment, pour que la mesure du temps soit la plus linéaire possible, il faut que la forme, par exemple, du vase soit adapté de telle façon que la hauteur de liquide va varier le plus linéairement possible avec le temps. En termes de phénomène linéaire, vous connaissez tous les bougies de l'Avent ou la hauteur d'huile dans une lampe à huile. Donc ça, vous imaginez que ça ne va pas être tellement précis, parce que ça va beaucoup dépendre de la forme du récipient. Et puis évidemment, ça pose un problème quand le récipient est vide, parce que le temps continue à s'écouler. Et là, il faut vite retourner s'habiller pour ne pas perdre trop de microsecondes. Mais on verra plus tard que le problème de la mesure du temps, c'est la continuité de la mesure. Parce que toutes les autres grandeurs, on peut faire une petite pause dans la mesure, aller faire autre chose. Quand on mesure le temps, il n'y a pas de temps mort, c'est le cas de le dire. Alors il y a un autre phénomène linéaire de type écoulement qui est beaucoup utilisé, qui repose sur l'astronomie, donc un petit peu plus universel, qui est l'angle de rotation de la Terre. En fait, la Terre tourne, et donc son angle de rotation va augmenter linéairement avec le temps, c'est-à-dire que chaque fois que la Terre aura fait un tour sur elle-même, ça fera 360 degrés, etc., 2 fois 360, 3 fois 360. Donc vous voyez que c'est un phénomène de type écoulement, c'est-à-dire qu'en mesurant l'angle de rotation de la Terre par rapport à quoi ? Par rapport à des étoiles de référence, c'est-à-dire que là, on a besoin de repérer l'angle de rotation de la Terre, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des étoiles de référence, où on va utiliser le Soleil. Et donc c'est ce qu'on fait typiquement avec un cadran solaire. Alors je ne sais pas si j'ai la petite main, si c'est bon. Donc. Et donc en mesurant simplement, par exemple sur le cadran solaire, l'orientation de l'ombre, c'est-à-dire la direction du Soleil, vous avez une information angulaire. Hein, vous voyez bien là le phénomène d'écoulement, d'augmentation linéaire de l'angle avec le temps. Et donc en connaissant l'angle, on peut en déduire le temps. Donc ça, on va voir que ça a été très longtemps, pendant très longtemps utilisé, déjà parce que c'est une mesure universelle, c'est-à-dire que tout, sauf quand il y a des nuages, ce qui est le cas aujourd'hui, tout le monde peut mesurer, avoir l'heure avec le temps, avec le soleil, mais vous allez voir que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Déjà, le premier problème, c'est que souvent on dit le jour solaire, c'est 86 400 secondes. Alors ça, c'est pas complètement vrai, parce que la Terre tourne autour du Soleil, mais elle tourne pas avec un axe de rotation qui est perpendiculaire au plan de rotation de révolution autour du Soleil. Et en plus, la trajectoire de la Terre autour du Soleil est légèrement elliptique. Donc ça veut dire quoi, précisément, c'est-à-dire que si vous regardez cette courbe, alors je ne sais pas si vous pouvez lire, mais en abscisse, vous avez les jours de l'année, et en ordonnée, vous avez l'écart entre le temps solaire vrai et le temps solaire moyen. Donc le temps solaire moyen, c'est lié à 86 400 secondes, c'est-à-dire on suppose que tous les jours ont la même durée au cours de l'année, et le temps solaire vrai, évidemment, il va fluctuer un petit peu, parce que c'est la durée pour retrouver le soleil suivant le même méridien. Et lié au fait qu'il y a cette inclinaison de l'axe de rotation de la Terre plus l'orbite elliptique, vous voyez qu'il y a des écarts entre le temps moyen et le temps vrai solaire qui peuvent aller jusqu'à 15 minutes. C'est-à-dire que si vous avez un cadran solaire et que vous ne faites pas ces corrections, vous pouvez vous tromper de plus ou moins 15 minutes. Donc dans certains cadrans solaires, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici précisément, mais vous voyez que plutôt que d'avoir des petits traits, on a des courbes en forme de 8 qui s'appelle l'équation du temps et qui vous permet, en fonction de l'année, de faire cette correction de plus ou moins, typiquement quelques minutes, pour être le plus proche possible du temps solaire vrai. Donc ça marche assez bien. C'est-à-dire que la mécanique céleste est quand même une science assez exacte. Et donc, on pourrait se dire, bon, on a résolu tous les problèmes puisqu'on a un défaut, mais on sait le corriger. Alors ça, c'est pas complètement vrai. Pourquoi ? Parce que la Terre ne tourne pas rond. Ça, on le sait tous, que la Terre ne tourne pas forcément rond. Pas forcément à cause de problèmes qu'on voit aux 20h le soir, mais à cause de phénomènes, on va dire, plus scientifiques, qui sont liés à plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est que la Terre, c'est pas une boule pleine, c'est-à-dire il y a plusieurs constituants, il y a un manteau, un noyau, une graine, et tous ces constituants tournent les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire ils ont des mouvements relatifs, et donc il y a des effets un peu de type freinage ou embrayage, qui fait que par frottement, la rotation de la Terre peut être accélérée ou ralentie en fonction de la période où on se situe. Ça, c'est le premier phénomène, et c'est absolument pas prévisible. Les autres phénomènes sont liés à des mouvements de masse liquide, hein, des océans, des mouvements atmosphériques, quand il y a des ouragans, des tornades, ça, des tsunamis, ça a des impacts, ou d'autres séismes, ça a des impacts plus ou moins importants sur la rotation de la Terre. Et donc, vous voyez que ça pose un problème parce que ces phénomènes ne peuvent pas être prédits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire un tsunami, un ouragan, on ne peut pas très bien prédire les mouvements relatifs entre le manteau et les couches plus internes de la Terre. Et donc, ça veut dire que le temps qui est lié à la rotation de la Terre sur elle-même, ce n'est pas un temps qui est infiniment stable. Et ça, on le voit sur cette courbe-là, qui vous montre quelque part l'écart entre le temps lié à la rotation de la Terre et le temps atomique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un temps qui, à ce niveau-là, est infiniment stable. Et le temps lié à la rotation de la Terre, à cause de ces phénomènes, s'écarte du temps atomique, qui est infiniment stable. Et ça peut poser un problème, parce que, par exemple, quand vous voulez envoyer une fusée ou autre, ce qui est important, c'est de connaître le temps astronomique, hein, le temps lié à la rotation de la Terre, puisque c'est lui qui vous donne l'orientation dans l'espace. Donc il faut être sûr que la différence entre le temps atomique et le temps astronomique, cette différence ne soit pas trop importante. Et c'est pour ça que régulièrement, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on rajoute des secondes, qu'on appelle les secondes intercalaires, donc qui sont montrées ici, hein, c'est les petites marches d'escalier. Chaque fois qu'il y a une petite marche d'escalier, donc en abscisse, c'est les années, et puis en ordonnée, c'est les secondes qu'on a rajoutées. Donc quand le temps lié à la rotation de la Terre s'éloigne trop du temps atomique, discrètement, dans la nuit, on rajoute, alors le « on », c'est toute la Terre entière au même instant, rajoute une seconde en plus pour décaler volontairement le temps atomique pour qu'il se rapproche du temps lié à la rotation de la Terre. Évidemment, ce serait plus simple de changer la vitesse de rotation de la Terre pour qu'il suive le temps atomique, mais il n'y a pas de bonnes idées, enfin réalistes en tous les cas, à ce jour. Et donc ça veut dire que cette seconde intercalaire, elle conduit au fait qu'il y a une minute qui dure 61 secondes. Donc souvent, c'est fait à minuit UTC. Donc pour la France, c'est 1h ou 2h du matin, suivant que c'est le 30 juin ou le 31 décembre. Et vous imaginez que c'est un vrai problème mondial, parce qu'il faut que tous les serveurs, tout Internet, toutes les horloges sautent d'une seconde au même instant. Donc en Europe, il n'y a pas trop d'activité, mais vous imaginez les pays où c'est en pleine journée, à cause des décalages horaires, où il y a les transactions bancaires. Donc c'est un phénomène qui est important d'un point de vue scientifique, mais qui a un impact sur la société très très fort. Donc on voit que la définition de la seconde, c'est-à-dire la mesure du temps avec l'astronomie, finalement est quand même a été utilisée pendant très très longtemps, hein, puisque jusqu'en 1956, en fait, la seconde était définie à partir du jour solaire, dont j'ai parlé. Et puis, à partir de 1956, même un petit peu avant, hein, c'était dans les années 30, grâce aux premiers oscillateurs à quartz, les scientifiques ont commencé à voir les fluctuations de la rotation terrestre et se sont dit « Oh, il faudrait une définition qui reste astronomique, mais qui soit quand même plus précise que celle liée à la rotation de la Terre sur elle-même. » Et c'est pour ça qu'ils ont proposé en 1956 la définition du temps des éphémérides, qui là n'était pas liée à la durée de rotation de la Terre sur elle-même, mais carrément la durée d'une année, donc le lien entre la définition de la seconde à partir de la durée d'une année, qui correspond à vraiment toute une période de révolution de la Terre autour du Soleil. Alors comme vous pouvez le voir, cette deuxième définition, elle a duré même pas... elle a duré à peu près une décennie, pour deux raisons. Un, parce qu'elle n'était pas facile à mettre en œuvre. C'est facile d'avoir, par astrométrie, de mesurer l'angle de rotation de la Terre. Mesurer la position par rapport à l'année, c'est quand même quelque chose de plus compliqué. Puis vous allez voir surtout que ces définitions astronomiques ont été démolies, quelque part, par l'invention des horloges atomiques au milieu du XXe siècle. Alors avant de parler d'horloges atomiques, je vais vous parler d'oscillateurs. Pourquoi ? Parce que les horloges atomiques utilisent des oscillateurs. Alors ça, c'est un deuxième grand concept de mesure du temps. J'ai parlé de la mesure du temps avec des écoulements, donc un phénomène qui varie linéairement. Vous pouvez utiliser, comme on va le voir, un phénomène qui est périodique. Alors je prends comme analogie la mesure d'une longueur avec une règle. Ça va vous paraître très simpliste, mais vous allez voir que derrière, il y a des choses relativement profondes. Si vous voulez mesurer, par exemple, la longueur de cette règle verte, ben c'est tout simple. Vous prenez une règle et vous comptez le nombre de graduations. Donc là, déjà, vous faites une hypothèse, c'est que vous connaissez la valeur de la graduation et que vous savez compter. Deux hypothèses. Là, ça va jusqu'à 5, ça va à peu près, c'est jouable. Et ben, on va faire pareil avec la mesure du temps. C'est-à-dire qu'on va utiliser un oscillateur. Je ne savais pas trop parmi l'Assemblée si vous savez ce que sont des oscillateurs ou pas. Donc un oscillateur, alors j'ai pris un oscillateur à la tournesol, hein, c'est-à-dire vous avez des oscillateurs mécaniques, vous avez des oscillateurs à peu près dans tous les domaines de la vie scientifique et de la société. Hein. Par exemple, les phénomènes de mode vestimentaire sont des phénomènes assez périodiques, ou la musique aussi, ça peut être assez périodique. Donc on voit qu'il y a des phénomènes périodiques, beaucoup en mécanique. J'ai pris l'exemple du pont de Tacoma parce que ça vous montre aussi que la fréquence d'oscillation dépend de la taille de l'oscillateur. Donc plus c'est gros, plus c'est aussi lentement. Le cœur, hein, qui a été un oscillateur qui a été beaucoup utilisé pour faire des mesures de temps. Un diapason ou ce fameux pendule à la tournesol. Très impressionnant, hein, le pont de Tacoma. Pouf, et à la fin, l'oscillateur, il a eu un petit problème. Et donc, comment on fait pour mesurer le temps? Ben, c'est très simple. Vous allez faire la même chose qu'avec votre règle graduée. Vous allez prendre le signal qui est fourni par votre oscillateur, qui est donc un signal périodique, hein, qu'on voit sur cette courbe ici, en haut. Et vous allez compter le nombre de périodes. Donc, vous allez faire la même hypothèse qu'avec votre règle. Vous allez supposer que vous connaissez la valeur de la période, hein, qui est une sorte de graduation temporelle élémentaire, et vous allez simplement compter le nombre de périodes. Donc si, par exemple, je prends mon petit pendule et je calcule la longueur bien, alors je ne sais plus où c'est, j'avais fait une marque, j'ai perdu, pour que ça fasse juste une seconde quand ça fait un aller-retour, eh ben, je sais qu'à chaque fois, donc une horloge, hein, c'est vraiment un oscillateur plus, donc c'est vraiment la pendule franc-comtoise, hein, une, deux, voilà. Et il faut bien choisir évidemment la forme, comme on va le voir, la forme et la dimension de l'oscillateur de telle façon que vous connaissiez très très bien la période élémentaire. Alors si je continue dans l'analogie avec la mesure d'une longueur avec une règle, on voit que plus les graduations sont fines, plus vous allez avoir de la précision dans la mesure. C'est-à-dire que plus les graduations sont fines, plus le nombre de graduations que vous allez mesurer est important. Et donc là, par rapport à tout à l'heure, c'était entre 4 et 5, disons des centimètres. Et là, on voit que si on a des graduations au niveau du millimètre, on voit qu'on a bien plus de précision. Et bien avec la mesure du temps, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire si vous voulez mesurer une durée donnée, plus la graduation temporelle, c'est-à-dire la période élémentaire, est fine, plus vous allez compter un grand nombre de graduations, un grand nombre de périodes pour la même durée totale. On peut le dire à l'envers, plus la fréquence de votre oscillateur, c'est-à-dire la fréquence de battement de l'oscillateur, est importante, et plus vous aurez de précision. Et cette approche presque simpliste, c'est quand même elle qui a conduit et qui conduit toujours toutes les recherches autour des horloges atomiques. C'est-à-dire vous allez voir que l'amélioration des horloges atomiques, c'est en particulier traduite par le fait qu'on savait augmenter leur fréquence. On va voir jusqu'à des valeurs qui sont assez impressionnantes, puisque les meilleures horloges atomiques aujourd'hui battent pendant une seconde 1 million de milliards de fois. Alors après, il faut compter le million de milliards de fois. Hein. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je vous disais, une horloge, c'est simple. Une horloge franc-comtoise, on compte 1, 2, 3, etc. Et on sait que le temps passe. Là, il faut compter 1 million de milliards. On sait qu'une seconde est passée, il faut recompter 1 million de milliards, etc. Donc il y a le procédé de comptage qui n'est pas forcément simple, mais en tous les cas qui fonctionne. Donc c'est un peu ce qui est montré sur ce diagramme. Alors c'est en coordonnées qu'on appelle logarithmique, c'est-à-dire entre chaque graduation, vous avez un facteur 10 de la fréquence. C'est-à-dire que là, vous avez 1 Hz, un battement par seconde. Juste à côté, vous avez 10 Hz, 10 battements par seconde, 100, ici 1000 Hz, etc. Donc, j'ai parlé des horloges franc-comtoises avec un battement à peu près par seconde. Vous avez dans votre montre un oscillateur à quartz. Alors, l'oscillateur à quartz, il a une forme de petit diapason. Alors, je vous le passe, parce que là on a l'impression qu'il est énorme. Hein. Enfin, non, il y a le doigt quand même. Je vous en passe un. Alors, c'est pas forcément facile à voir. C'est un oscillateur. On a enlevé simplement le petit capuchon. Donc, vous pouvez. Il fera rien. C'est des choses qui coûtent 10 centimes d'euros. Donc, je vous laisse vous le passer. Il faut juste pas le laisser tomber, parce qu'après, on le perd. Hein. Il est perdu. Donc ça me permet de faire une petite digression sur la piézoélectricité, pourquoi les oscillateurs à quartz fonctionnent. Parce qu'il repose sur un phénomène qu'on appelle la piézoélectricité, qui a été découvert par Pierre Curie à la fin du XIXe siècle, et qui associe à un cristal, donc de quartz, un phénomène assez intéressant qui est que si on déforme le cristal, on crée un petit signal électrique, une petite tension. Et inversement, si on applique une petite tension, on déforme le cristal. Donc si vous prenez le petit diapason qui est ici, hein, qui est en train de circuler, le petit diapason qui est ici, c'est comme un diapason pour la musique, sauf que celui-là, il va vibrer, alors comme, rappelez-vous, hein, plus c'est petit, plus ça vibre vite. Donc le petit diapason qui est en train de circuler, qui est à peu près millimétrique, il vibre à 32 768 Hz, très précisément. Alors pourquoi une fréquence aussi compliquée? C'est que c'est un multiple de 2, c'est 2 puissance 15, donc si vous divisez par 2 la fréquence 15 fois, vous arrivez à 1 coup par seconde, ce qui vous permet d'incrémenter votre aiguille ou votre afficheur. Donc c'est facile de passer de cette fréquence un peu bizarre à un battement par seconde. Alors la piézoélectricité, donc les oscillateurs à quartz, vous en avez partout. Partout, dans vos téléphones, téléviseurs, vos PC. C'est des milliards d'horloges à quartz qui sont vendues par an. Hein. C'est vraiment des applications très très larges. Et la piézoélectricité est beaucoup utilisée pour les oscillateurs, mais vous en utilisez aussi, alors pour ceux qui aiment bien les anciens tourne-disques, là, les 33 tours à l'ancienne, mais aussi dans tous les filtres électroniques, les allumes-gaz, les moteurs autofocus, hein, c'est-à-dire que si vous arrivez à envoyer une tension qui fait suffisamment rapide pour que le cristal se déforme rapidement, vous pouvez réaliser un déplacement ou une rotation, et les moteurs autofocus, en général, utilisent ce type de technique. Donc, j'aurai pas le temps dans mon exposé de montrer toutes les autres applications des techniques qu'on utilise dans le domaine temps-fréquence, mais en général, c'est vraiment des jolies applications qui dépassent simplement la mesure du temps. Et vous avez certainement tous entendu parler de MEMS, de micro, de systèmes mécaniques, électromécaniques, microscopiques. Là aussi, vous en utilisez tous les jours. Hein, j'espère que vous ne les utilisez pas dans les airbags, parce que c'est pour déclencher les airbags, mais pour tous les systèmes de stabilisation d'image ou même dans les smartphones pour aussi de la navigation. De plus en plus dans les montres, les petits diapasons là, comme celui qui est en train de circuler vont être remplacés par des systèmes MEMS avec du silicium qui sont encore plus compacts et encore plus fiable en termes de fonctionnement. Donc là, il y a vraiment un enjeu, c'est pas la performance ultime, hein, c'est vraiment la très grande production pour des applications qui sont pas forcément scientifiques. Donc là, c'est si on était dans le domaine des oscillateurs à quartz, hein, les oscillateurs à quartz en fréquence vont à peu près jusqu'à, on va dire, 1 GHz à la louche, c'est-à-dire 1 milliard de battements par seconde, et puis après, on peut monter en fréquence, aller dans le domaine micro-ondes, donc le même domaine de fréquence que votre micro-ondes qui réchauffe les aliments. Et si on monte encore en fréquence, donc on va très très haut, on arrive dans des fréquences qui se retrouvent dans le domaine optique, hein, du spectre, et on arrive à avoir des oscillateurs. Un laser, c'est un oscillateur, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais un laser, c'est un oscillateur dans le domaine optique qui génère une onde électromagnétique qui est un champ électromagnétique qui oscille. Par exemple, ce champ, alors qu'il est vert, il oscille à peu près à quasiment 10 puissance 15 battements par seconde. D'accord ? Donc, on va voir les horloges optiques. Alors, c'est des lasers un petit peu plus compliqués que le pointeur laser, mais l'oscillateur d'une horloge optique, on va voir que c'est simplement un laser. Donc, on se dit, à ce niveau-là, on a à peu près, on devrait être content parce que, avec un laser, on arrive à découper une seconde en 10 puissance 15 petites graduations, il suffit de les compter, et on est satisfait. Alors, on n'est pas complètement satisfait parce qu'il y a le problème de la confiance dans la mesure. Je reprends ma règle. Je mesure une certaine, toujours ma petite tige verte, et puis j'achète une deuxième règle, et puis je mesure, je la mets à côté. Et là, pas de chance, je ne trouve pas le même résultat. Alors là, j'ai un tout petit peu exagéré, mais faites l'exercice, achetez des doubles décimètres dans des magasins différents avec des prix et des marques différentes, et vous allez voir que des fois, il y a au moins un demi-millimètre de différence sur 20 cm. Donc pour un lycéen, un écolier, c'est pas grave. On va voir pour des applications, si on avait la même précision dans la mesure du temps, je pense qu'il y aurait des problèmes pour faire atterrir les avions. Donc vous voyez que derrière ce transparent très simple, il y a le problème de la mesure et de la confiance dans la mesure. C'est-à-dire, à quelle règle vous faites confiance, là ? Déjà, il faut deux règles pour vérifier qu'il y a un problème. Si on en aurait qu'une, on aurait eu confiance. Donc c'est parce qu'on en a deux qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Et là, laquelle des deux est bonne ou pas bonne. Et donc, vous allez voir qu'on a le même problème avec la mesure du temps. C'est-à-dire, si je prends deux oscillateurs qui veulent mesurer la même durée, mais qui n'ont pas exactement la même fréquence, chaque oscillateur a une fréquence différente, vous voyez que la même durée va se traduire par un nombre différent de périodes mesurées et par conséquent, une mesure différente. Et là, encore une fois, à qui faire confiance ? Et c'est clairement... Alors ça peut être soit parce que chaque période est décalée, soit parce que la période de l'oscillateur, elle change entre le matin, le midi, le soir. Regardez simplement votre horloge de bord dans la voiture, suivant que c'est en hiver, en été, vous allez voir que souvent elle se décale plus vite par rapport à d'autres références de temps. Simplement parce que simplement la période peut dépendre de la température. Un bon exemple, alors donc c'est un peu ce qui est illustré là, c'est le fait que finalement le défaut de tous les oscillateurs, c'est que la fréquence de résonance, que ça soit le pont, que ça soit le petit diapason ou le pendule oscillant, va dépendre de plein de choses, de plein de paramètres, de la géométrie, de l'architecture du résonateur, de la dimension, de l'environnement, évidemment du vieillissement, etc. Donc un petit exemple, j'ai pas mis beaucoup de formules, mais c'est une des formules. C'est si vous prenez un pendule classique, comme celui-là, donc pour ceux qui se rappellent à peu près leurs études de lycée, la fréquence, elle dépend de la longueur du pendule, petit l, qui est ici, et de la valeur de l'accélération de la pesanteur. C'est-à-dire, si vous êtes en apesanteur, votre pendule, il oscille pas. Et donc, ça, c'est la formule... c'est une approximation de la formule exacte. Et vous voyez déjà qu'il y a plein de problèmes, parce que souvent, on dit... c'est un oscillateur harmonique, donc la fréquence ne dépend pas de l'amplitude. Ça, c'est pas vrai. Il y a ce qu'on appelle des défauts d'isochronisme, c'est-à-dire que la fréquence dépend de l'amplitude, là, ce qui s'appelle θ0. Et ça, c'est vrai dans un oscillateur à quartz. La fréquence dépend de l'amplitude. Donc si vous prenez deux oscillateurs identiques et que vous les faites fonctionner avec des amplitudes différentes, ils vont pas donner les mêmes fréquences. Et puis ça dépend de l'environnement. Donc ça dépend de la longueur. C'est-à-dire que, par exemple, si j'avais un oscillateur comme celui-là, et que je voulais être sûr de sa fréquence à, on va dire, à 10-16, avec 16 chiffres significatifs, ça voudrait dire que je devrais être capable de réaliser la longueur ici, et de la maîtriser dans le temps, avec une taille qui est à peu près un quart de la taille d'un noyau, d'un atome. Vous voyez que ça va être un petit peu difficile. Donc ça vous donne les ordres de grandeur. Et puis en plus... il faut être sûr que ça ne change pas avec le temps, que la température ne va pas faire varier la longueur. Et évidemment, dès qu'on a un système mécanique, la température, par des effets de dilatation, va faire varier la longueur. Pareil pour la pression. Le frottement de l'air va avoir un effet sur l'oscillation. Petit g, qui est l'accélération de la pesanteur, comme vous le savez, elle n'est pas la même au pôle et à l'équateur, parce qu'il y a un effet de force centrifuge, qui fait que la différence est toute petite, petit g, entre le pôle et l'équateur. Mais ça vous fait typiquement une erreur, alors si je ne dis pas de bêtises, de l'ordre de 30 secondes par jour. Donc ça veut dire, si vous prenez exactement, vous avez réalisé votre super oscillateur à... ou quart de noyau près, vous en mettez un au pôle et un à l'équateur, déjà, ils ont peu de chances d'être exactement à la même température. Et en plus, à cause de petit g, ils vont dériver de 30 secondes l'un par rapport à l'autre. Donc vous voyez que la mesure simplement avec un oscillateur, la mesure du temps, est quelque chose de très très compliqué. Et ça a été un enjeu pendant des siècles, simplement parce que la mesure du temps, et c'est toujours vrai, c'est une mesure stratégique, en particulier pour la défense. Par exemple, pour la navigation maritime, pendant longtemps, il n'y avait pas de GPS. Et donc, pour pouvoir faire le point au milieu de l'océan, alors vous avez un sextant pour mesurer la latitude, en regardant à peu près la hauteur des astres. Par contre, la longitude de la Terre est ronde. Et donc, pour avoir la longitude, il faut avoir une horloge locale et mesurer l'orientation des astres par rapport au temps local. Donc, il fallait avoir des horloges mécaniques de très très haute performance. Et il y a eu des développements de très très haute qualité pour justement essayer de compenser ce problème de dérive des horloges mécaniques quand les gens partaient pour les navires partaient pour des expéditions très très importantes. Je pense que c'était au début du XVIIIe siècle où carrément toute la flotte britannique s'est écrasée sur des récifs de je ne sais plus quelle île, hein, je crois, ça doit être Scilly ou quelque chose comme ça, c'est ça ? C'est ça ? Scilly. Parce que simplement les horloges s'étaient décalées et donc une erreur de temps, c'était une erreur de position. En gros, hein, si vous êtes sur l'équateur, si vous faites une erreur de 10 secondes, c'est 5 km d'erreur. Donc 10 secondes sur des missions, des traversées qui duraient plusieurs semaines, c'est pas si simple que ça à maîtriser. Donc la solution, quand même, il faut qu'on parle d'horloge atomique. La solution, ça va être de prendre un oscillateur et de stabiliser la fréquence de l'oscillateur en la comparant à une fréquence qui est une fréquence extrêmement bien connue, qui est universelle, qui ne dérive pas, qui est une référence absolue, qui va être fixée par l'atome et qui va être plus précisément fixée par des niveaux énergétiques des atomes. Et là, vraiment, c'est toute la force de la mécanique quantique. C'est pour ça que les horloges atomiques sont apparues, ont été inventées au milieu du XXe siècle. C'est parce qu'il y avait déjà eu 50 ans de mécanique quantique avec énormément d'expériences de spectroscopie de précision. Et vous allez voir que la spectroscopie, bon, c'est utilisé évidemment en astronomie, en astrophysique, mais vous allez voir qu'on utilise une autre facette de la spectroscopie en regardant les fréquences en mesurant les fréquences atomiques et en s'en servant comme référence. Donc, le principe d'une horloge, vous allez voir, est relativement simple. Vous partez d'un oscillateur. Donc ça peut être un oscillateur dans le domaine basse fréquence jusqu'au laser, un oscillateur dans le domaine optique. Et si vous ne faites rien, votre fréquence est instable, c'est-à-dire qu'elle va fluctuer. Et en plus, elle n'est pas exacte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prévoir a priori quelle va être la valeur de la petite graduation temporelle. Et l'idée très simple, ça va être de comparer la fréquence de l'oscillateur à une fréquence qui, elle, est extrêmement bien connue, extrêmement bien modélisée, et qui correspond à l'énergie pour faire la transition entre deux niveaux d'énergie d'un atome. C'est-à-dire que vous savez que la mécanique quantique dit que les niveaux d'énergie que peuvent prendre un atome, ne sont pas quelconques. Ils sont quantifiés, c'est-à-dire qu'un atome peut pas prendre, là, dans ce cas-là, il peut prendre l'énergie E1 ou E2, mais il ne peut pas prendre une énergie intermédiaire. Et pour passer du niveau E1 au niveau E2, il doit échanger de l'énergie. Alors, en général, c'est sous forme radiative, hein, c'est sous forme d'un photon. Et cette énergie qui correspond à la différence d'énergie entre les deux niveaux de l'atome, peut être associée à une fréquence par la loi de Planck, H nu égale delta E. Et donc, dans une horloge atomique, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va venir exciter les atomes avec le signal qui vient de l'oscillateur. Si la fréquence et puis la résonance, la fréquence de l'oscillateur, les atomes, ils sont contents, ils voient un signal qui a résonance, donc c'est vraiment comme la balançoire, hein. Si vous l'excitez à bonne fréquence, les oscillations sont importantes, donc la réponse des atomes qui est représentée par cette petite courbe verte va être maximale, et si la fréquence de l'oscillateur se décale, simplement parce que la température a changé, parce que l'oscillateur fatigue un petit peu, les atomes vont jouer le rôle de discriminateurs de fréquence, donc ils vont voir qui sont excités avec un signal qui n'a pas exactement la bonne fréquence. C'est comme une balançoire, si vous commencez à l'exciter à la mauvaise fréquence, les amplitudes seront moins importantes. Et donc les atomes vont fournir un signal de plus faible amplitude. Et donc vous voyez qu'en venant détecter ce signal et en venant corriger par un asservissement un des paramètres de l'oscillateur, donc avec ce système bouclé, on peut s'arranger que la sortie ici, la fréquence va être stable, exacte, c'est-à-dire elle va devenir exacte, exactement égale à la fréquence de l'atome, et ça veut dire que le but du jeu de l'asservissement, c'est d'assurer que la fréquence de l'oscillateur est toujours égale à F0. Donc vous voyez le système, vous prenez des oscillateurs différents, et si vous venez les asservir sur des atomes, ils n'ont pas besoin d'être identiques les atomes, il y a juste besoin que ce soit la même espèce, alors pour l'instant c'est le césium, donc vous prenez des oscillateurs différents, vous les asservissez dans des pays différents sur des mêmes atomes de césium, de la même espèce, et vous êtes sûr qu'à la fin, ils vont avoir la même fréquence. Et en plus, ça va être stable, c'est-à-dire que ça ne va pas dériver dans le temps. Donc ça marche redoutablement bien, comme vous allez le voir. Et c'est pour ça que très très vite, la définition de la seconde a quitté le domaine de l'astronomie pour arriver dans le domaine de la physique atomique et de la physique quantique. Et c'est pour ça que depuis 67, la seconde et la durée de... Donc là, vous voyez, hein, c'est vraiment... On compte les périodes, hein, c'est-à-dire on dit 9, on compte 9.192.131.770 périodes, on sait qu'il y a une seconde qui s'est écoulée, et on recommence, et ainsi de suite. D'accord ? Alors ça, entre la définition et la réalité, évidemment, c'est, les choses sont toujours un petit peu plus complexes, donc j'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en tous les cas, vous voyez le niveau déjà de précision qu'il y avait dans les années 60. Et donc c'est ce qui permet de définir aujourd'hui le temps international, qui est un temps atomique, malgré le fait que quand vous recevez un mail, quand vous recevez un SMS, c'est souvent daté dans GMT, donc Greenwich Mean Time ou Meridian Time, ce qui est une échelle de temps qui n'est plus du tout officielle, hein, puisqu'aujourd'hui, l'échelle de temps est UTC, le temps universel coordonné, qui est un temps atomique. Alors, des horloges atomiques qui fonctionnent sur ce principe, il y en a plein. Depuis, alors, ce qui est représenté de façon très qualitative sur ce diagramme, donc en abscisse, c'est le volume, hein, plus c'est à droite, plus c'est gros, et en performance, en ordonnée, c'est les performances, donc plus c'est en haut, plus c'est performant. Donc, vous avez d'un côté les horloges de laboratoire, vraiment, où là, c'est la métrologie très fondamentale, ultime, et la physique fondamentale. À l'autre bout, vous avez des développements pour essayer de faire des horloges atomiques centimétriques, pour intégrer, par exemple, dans tous les récepteurs GPS, pour améliorer l'acquisition des récepteurs GPS. Et entre, vous avez, on verra les applications tout à l'heure, des horloges commerciales qui peuvent être utilisées dans l'industrie ou dans les systèmes de positionnement par satellite. Alors aujourd'hui, les meilleures horloges utilisent toutes un phénomène qui a été une vraie révolution en physique atomique et en particulier en métrologie du temps et des fréquences, qu'on appelle le refroidissement laser. Donc je passe juste de transparent pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça vient du fait que cette courbe-là, en fait, vous imaginez que ça va être plus facile de pointer le sommet si la courbe est très fine et très pointue. Si vous avez une courbe qui est large, une patate, votre fréquence de l'oscillateur pourra varier un petit peu, vous ne le verrez pas. Si vous voulez avoir un très bon discriminateur, il faut une courbe qui est très fine. Et pour avoir une courbe qui est très fine, il faut que vous soyez capable d'observer les atomes très longtemps, ce qui est un peu le cas dans la vie courante, c'est-à-dire plus vous observez une personne longtemps, plus vous avez de détails sur cette personne. Ben là, c'est pareil, plus votre signal va interagir longtemps avec les atomes, plus la connaissance de la fréquence ou de la différence de fréquence entre l'oscillateur et les atomes sera bonne. Et donc, pour avoir un signal fin, il faut observer longtemps. Et pour observer longtemps, soit vous faites des très gros dispositifs, soit vous prenez des atomes de très faible vitesse. Et c'est ce qu'on va voir avec le refroidissement laser. C'est que plutôt que de faire des gros dispositifs, grâce au refroidissement laser, on peut avoir des atomes de très très faible vitesse et donc gagner sur la largeur de cette courbe de résonance. Alors le refroidissement laser, c'est du billard. Comment ça fonctionne ? Donc à nouveau, je prends un atome qui a deux niveaux d'énergie. J'aime bien les atomes avec deux niveaux d'énergie. Et l'atome se balade avec une certaine vitesse vers la gauche. Et donc on va lui envoyer... Donc, l'atome se balade comme ça. Et on va lui envoyer dans le sens opposé un faisceau laser. Donc le faisceau laser, lui, il est constitué de photons qui transportent une certaine énergie et une certaine impulsion. Et on s'arrange pour que le faisceau laser soit accordé à la bonne fréquence, de telle façon que quand l'atome voit ce faisceau laser, il pense qu'il y a une seule chose, absorber un photon. Donc il est dans son état fondamental vert, il voit un photon, il l'absorbe, conservation de l'énergie, il monte dans l'état excité, conservation de la quantité de mouvement, de l'impulsion, il subit un recul, c'est comme si vous étiez en patin roulette, quelqu'un vous envoie, on va dire, une boule de pétanque, ça vous énerve un petit peu, donc vous montez en énergie, puis vous ralentissez un peu parce que vous absorbez la quantité de mouvement de la boule de pétanque. Donc on se dit, c'est super, ça permet de diminuer la vitesse. Le seul problème, c'est que l'atome, il est dans l'état excité. Et quand un atome est dans un état excité, il pense qu'à une seule chose, se désexciter, donc à retomber dans l'état fondamental. Et donc quand il va retomber dans l'état fondamental, il va perdre son énergie en émettant un photon, mais en émettant le photon, il va subir un recul au moment de l'émission. Là, c'est le coup de canon. Hein. Quand vous tirez au canon, le canon, il recule. Donc on se dit, on n'a pas gagné grand-chose, puisque finalement, on a un recul au moment de l'émission qui équivaut au recul au moment de l'absorption. Alors, c'est pas complètement vrai, parce que vous voyez qu'au moment de l'absorption, le recul, il a la direction du faisceau laser. Par contre, au moment de l'émission, c'est ce qu'on appelle de l'émission spontanée, hein, c'est comme ce qu'on a dans les ampoules, l'émission spontanée, elle se fait de façon isotrope. Donc, c'est vrai que quand l'atome va émettre un photon dans un sens, il va subir un recul dans l'autre, mais si, dans l'autre sens. Mais si vous regardez sur un grand nombre d'absorption et d'émission, à chaque absorption, il va absorber le recul du photon dans le même sens, qui est le sens du faisceau laser. Et par contre, au moment des émissions spontanées, il y en aura autant à droite qu'à gauche, en haut, en bas. Et donc, en moyenne, ça va donner une contribution nulle liée au recul des émissions spontanées. Donc, vous voyez que vous allez avoir une force de pression de radiation qui est dans le sens du faisceau laser. Alors, si on veut essayer de voir l'ordre de grandeur de cette force, les atomes, c'est plutôt des atomes assez lourds. Hein. Par exemple, les horloges atomiques, on utilise beaucoup le césium. Donc le césium stable, hein, pas le césium radioactif dont on entend parler. Là, on a besoin d'atomes très stables, hein, avec des niveaux d'énergie très, très calmes. Hein. Donc c'est le 133. Et donc, vous voyez que le changement de vitesse, quand l'atome absorbe un photon, sa vitesse ne change que de 3 mm par seconde. Donc vous avez un atome de césium thermique, là, à température ambiante, qui arrive à 300 mètres par seconde, donc qui est plutôt un peu rapide. Et quand il va absorber un photon, sa vitesse ne va changer que de 3 mm par seconde. Donc on se dit, c'est peine perdue, on ne va pas y arriver. Si on y arrive, pourquoi ? Parce que la force, ce n'est pas simplement le changement de vitesse, c'est le changement de vitesse divisé par le temps qu'il faut pour changer cette vitesse-là. Alors c'est vrai que le changement de vitesse est tout petit, mais par contre, le temps pour changer cette vitesse, c'est ridiculement petit, puisque c'est quelques dizaines de nanosecondes. Donc quand vous faites le rapport entre le changement de vitesse et la durée qu'il faut pour changer cette vitesse, vous trouvez une force, une décélération qui est phénoménale, puisque c'est à peu près 10 000 fois l'accélération de la pesanteur. Donc ça veut dire que vous arrivez, en gros, avec un atome, donc je reprends l'exemple d'un atome de césium, qui est en gros alors 300 mètres par seconde, peut-être ça vous parlera plus, c'est à peu près 1 000 km/h, donc vous êtes en voiture à 1 000 km/h, une bonne voiture, et grâce au refroidissement radiatif, vous allez être capable d'arrêter l'atome en moins d'un mètre. Donc vous voyez que c'est simplement avec de la lumière, hein, simplement avec vraiment la pression des photons qui tapent sur les atomes, et c'est très très efficace. Alors pourquoi on parle de refroidissement ? C'est que vous savez qu'on peut relier l'énergie cinétique liée à l'agitation thermique à la température, par cette formule-là, où K est la constante de Boltzmann. Et donc, si vous êtes capable de ralentir, d'arrêter les atomes en utilisant des photons, c'est-à-dire par exemple en faisant passer leur vitesse de quelques centaines de mètres par seconde à quelques centimètres par seconde, ça équivaut dans le domaine des températures à passer de la température ambiante, 300 Kelvin, à des températures qui touchent quasiment le zéro absolu, puisque dans ces horloges atomes froids, typiquement, la température des atomes est de 1 microkelvin, 1 millionième de degré du zéro absolu. Et là, il n'y a pas besoin de faire trop de choses compliquées. C'est-à-dire on peut aller jusqu'au nanokelvin, 1 milliardième du zéro absolu. Donc l'avantage de cette technique, comme je l'ai déjà dit, ça va te permettre d'avoir des vitesses très petites, donc des durées d'interaction très très importantes, et donc des raies de résonance très fines. Donc là, il y a un intérêt direct. Et en plus, je le mentionnerai un tout petit peu en conclusion, c'est qu'à ces températures-là, la matière ne peut plus être vue comme simplement des atomes et des petits grains de matière. À ces températures-là, la matière est ondulatoire. Et on va voir que dans une horloge atomique, sans le savoir, on fait des interférences sur des ondes atomiques. J'en parlerai un tout petit peu en conclusion. Donc dans les horloges atomes froids, il y a plusieurs catégories. Une première catégorie, ben, c'est ce qu'on appelle les fontaines atomes froids. Donc il y en a plusieurs qui sont installées à l'Observatoire de Paris à quelques centaines de mètres d'ici. Et ces instruments, alors qu'ils sont relativement compliqués, hein, donc les atomes sont refroidis par les lasers, et après interagissent avec le signal qui vient de l'oscillateur. Ça permet de mesurer la différence entre la fréquence de l'oscillateur, la fréquence atomique, et de venir corriger éventuellement la fréquence de l'oscillateur si elle a bougé. Et aujourd'hui, l'incertitude qu'on a sur la fréquence de ces instruments est de l'ordre de, donc le delta F sur F, de 10-16. Ça veut dire que quelque part, on a confiance dans la valeur de la graduation avec 16 chiffres après la virgule. Et ça veut dire aussi que si vous prenez deux horloges de ce type et que vous les comparez, vous allez trouver la même mesure du temps avec 16 chiffres après la virgule. Et donc ça veut dire, ça c'est sur la fréquence, et si on le décline plutôt en incertitude sur la mesure du temps, c'est 10 moins 11, 10 picosecondes sur un jour, et c'est à peu près une seconde au bout de 300 millions d'années. Donc vous voyez que si on mettait ça en termes de distance, ça serait une connaissance de la distance entre le Soleil et la Terre avec une résolution inférieure à celle d'un cheveu. Donc vous voyez qu'on est quand même dans de la métrologie de très haut vol. Sachant que je ne suis pas sûr que de parler de mesure distance Soleil, Terre-Soleil, soit très, très, très juste. Mais bon, c'est vraiment juste un ordre de grandeur. Donc ça, c'est les horloges atomes froids qui fonctionnent aujourd'hui avec le césium, hein, avec la définition du césium. Et il y a beaucoup de... Donc c'est le présent. Alors il y a beaucoup de développement en cours, d'installer ces horloges dans l'espace. Alors pourquoi dans l'espace? C'est parce que sur Terre, les atomes, comme tout le monde, ils tombent. Donc quand on a un atome à 1 cm par seconde, on le lâche, il tombe. Donc il n'a pas pendant longtemps 1 cm par seconde. Donc l'idée, c'est de l'envoyer dans l'espace, là où il va être en apesanteur, donc il va flotter. C'est-à-dire qu'il va tomber vers la Terre en même temps que l'horloge. Donc par rapport à l'horloge, il va flotter. Et donc il y a un projet spatial qui va voler à bord de la Station spatiale internationale en 2016, qui s'appelle Pharao, qui est un gros projet français et européen. Enfin, l'horloge atome froid est française. Et l'idée d'aller dans l'espace, c'est pas uniquement de gagner en performance, c'est aussi, j'en parlerai tout à l'heure, de faire des tests de physique fondamentale, et en particulier des tests de la relativité d'Einstein, en comparant le temps dans l'espace et le temps au sol. Et l'autre grande voie de développement, donc le césium, rappelez-vous, c'est 9 milliards de, on va dire 10 milliards pour arrondir, 10 milliards de battements par seconde, l'horloge qui utilise le césium. Si on passe dans le domaine optique, donc là les fréquences sont considérablement plus importantes, hein, c'est à peu près 50 000 fois plus important, c'est-à-dire qu'on va avoir une résolution sur la petite graduation temporelle 50 000 fois plus grande. Donc là, j'ai mis beaucoup de zéros pour faire peur. Hein. On peut mettre des puissances de 10, c'est plus raisonnable. Donc c'est typiquement 5 puissance 14 Hertz. Et ces horloges, déjà, ont dépassé les horloges à césium de plus d'un ordre de grandeur et ne dérivent. Alors là aussi, ça n'a pas beaucoup de sens de dire une seconde au bout de 3 milliards d'années, mais ça vous donne quand même le niveau de qualité de ces instruments. Donc c'est un peu ce qui est représenté sur cette courbe. C'est-à-dire, si vous regardez la précision de la mesure du temps en fonction de la date, en fonction des années. Donc là, au début, c'était essentiellement des oscillateurs mécaniques. Le chronomètre de Harrison, la pendule de Harrison, c'est un ingénieur qui a développé des systèmes extrêmement performants justement pour répondre aux besoins des traversées transatlantiques des navires. Là, c'est intéressant, hein. Il y a même eu des romans écrits sur la querelle ou la compétition entre qui allait trouver la meilleure solution. Est-ce que c'est les horlogers mécaniques, hein. Il n'y avait pas encore d'horloge atomique, les horlogers mécaniques, Harrison, les ingénieurs, ou les astronomes, ou en regardant des mouvements complexes de satellites, de planètes, pouvaient remonter à une information temporelle. Et finalement, c'est Harrison qui a remporté le prix, parce qu'il y avait un prix derrière, avec des instruments très très impressionnants pour l'époque, hein, puisqu'ils dérivaient simplement de quelques dizaines de millisecondes par jour, ce qui n'était pas beaucoup. Et donc, vous voyez que jusqu'au, on va dire, première partie du XXe siècle, c'était les horloges mécaniques, électriques, les oscillateurs à quartz, et que les oscillateurs à quartz, on a commencé à voir les fluctuations de la rotation terrestre. Et pourquoi il y a deux couleurs? C'est que le bleu, c'est la mesure du temps avec l'astronomie et la mécanique. Et alors je ne sais pas quelle couleur ça fait chez vous, là, le jaune bizarre à droite, c'est vraiment les horloges atomiques. Et donc vous voyez qu'à partir du milieu du XXe siècle, la mesure du temps a été vraiment contrôlée par les horloges atomiques. Et on voit, en gros, que tous les 10 ans, un facteur 10 sur la précision, hein, ce qui est représenté ici. Alors là, je l'ai représenté plutôt en termes d'une erreur au bout d'un jour. C'est-à-dire que là, c'est un pendule mécanique, c'est plutôt une seconde au bout d'un jour. Et les meilleures horloges optiques, aujourd'hui, c'est une picoseconde, donc 10 moins 12 secondes au bout d'un jour. Et donc, vous voyez que c'est assez impressionnant. Hein. Il y a une loi de Moore de l'amélioration de la performance des horloges atomiques qui est à peu près un facteur 10 tous les 10 ans et qui continue. Et donc, à travers toutes ces avancées scientifiques, technologiques, sur les siècles, vous imaginez bien qu'il y a eu aussi des avancées théoriques fortes, puisque pendant longtemps, le temps a été considéré comme une grandeur absolue, qui ne dépendait pas des référentiels. Et comme vous le savez certainement, depuis Einstein et la théorie de la relativité, le temps doit être perçu comme quelque chose de relatif, qui est que des horloges identiques dans des référentiels différents ne vont pas donner les mêmes informations. Et on va voir justement que on a besoin de la relativité pour interpréter les mesures de temps, mais inversement, les mesures très précises avec des horloges atomiques permettent de faire des tests de la théorie d'Einstein. Donc ça me permet de passer aux applications. Alors les applications, j'ai été obligé de faire un choix parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Alors j'ai essayé de faire un choix un peu sur un spectre un peu large pour vous montrer que des mesures de temps, il y en a partout. Alors la définition des unités, ça paraît tout bête, mais ça rejoint un petit peu le petit signal périodique. C'est important qu'aujourd'hui, pour des raisons scientifiques, des raisons fondamentales, mais aussi des raisons économiques, c'est important que tout le monde ait les mêmes unités, parce que sinon, ça pourrait poser des problèmes. Et donc, l'orientation actuelle de la métrologie, c'est d'essayer de s'éloigner le plus possible des anciennes définitions qui étaient, on prend le mètre étalon qui est un bout de métal, le kilogramme étalon qui est un bout de métal, c'est toujours la définition du kilogramme, un bout de métal en platine iridiée qui est au BIPM. Et l'idée, aujourd'hui, c'est d'essayer de le plus possible, de définir les unités à partir de constantes fondamentales ou de phénomènes quantiques fondamentaux. Donc évidemment, le temps est extrêmement bien placé à ce niveau-là, puisque le temps aujourd'hui est l'unité qui est la mieux mesurée. Derrière ça, il y a les constructions d'échelles de temps atomiques, c'est-à-dire que c'est important de construire le temps, de fournir des échelles de temps dans lesquelles on va pouvoir dater des événements et être sûr que toutes les échelles de temps sont en bonne adéquation, en bonne harmonie tout autour de la Terre. Et ça, c'est un problème concret dans la vie de tous les jours. Si vous voulez dater des événements, synchroniser des réseaux, quand vous téléphonez, vous utilisez Internet, s'il n'y avait pas de synchronisation, ça ne marcherait pas. Pourquoi ? Parce que souvent, dans la même fibre, vous allez mélanger plusieurs signaux qui viennent de plusieurs utilisateurs, c'est du multiplexage, et à la sortie, il faut quand même retrouver les bonnes conversations et les bons échanges de données, sinon ça pourrait poser des problèmes. Et plus les débits augmentent, plus les besoins en termes de synchronisation, de qualité de synchronisation, vont être demandeurs. Donc c'est tout bête. Ça peut être pour les transports, simplement pour des transports ferroviaires, pour des transactions bancaires. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le « fast trading ». Le fast trading, c'est la capacité, en quelques millisecondes, d'échanger des volumes financiers monstrueux, hein, puisque tout est automatisé. Et la question, c'est est-ce que c'est vraiment juste avant ou après la clôture du marché ? Et là, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de police capable de faire ces mesures-là. Et on voit bien qu'avec l'augmentation de la rapidité des transactions, il y a besoin d'avoir des capacités de synchronisation et de validation des opérations bien plus contraignantes. Donc on voit que ça couvre quand même un champ d'application assez large. Alors juste une petite... j'ai parlé des transports. Un petit transparent sur l'unification de l'heure. Alors ça paraît tout bête, mais jusqu'à la fin du 19e siècle, en France, l'heure n'était pas unifiée. C'est-à-dire chacun voyait midi à sa porte, puisque c'était l'heure solaire. Et ça ne posait pas franchement de problème. Et ça commençait à poser des problèmes avec les transports ferroviaires. C'est-à-dire que quand on se déplaçait suffisamment vite pour que sa montre, qui était sur l'heure, ou son horloge, qui était sur l'heure solaire du point de départ, colle plus avec l'horloge qui est à l'heure solaire du point d'arrivée, ça posait des soucis. Et donc c'est vraiment avec les transports ferroviaires que s'est posé le problème de l'unification de l'heure. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça, hein. C'est assez récent. Et en 1891, l'heure légale en France a été définie comme l'heure du temps moyen de Paris. Et donc, si vous passez à l'observatoire, vous avez le méridien de Paris qui matérialise la référence pour la France. Donc, pendant longtemps, l'heure française a été liée au méridien de Paris. Et ça posait un problème en 1911 parce que... toute la communauté internationale s'était raccordée au méridien de Greenwich, qui est légèrement décalé. Et dans les conférences internationales, dans les confrontations méridien de Paris contre méridien de Greenwich. Finalement, c'est le méridien de Greenwich qui a été vainqueur, qui a gagné. Et donc en 1911, la France a été obligée de décaler sa définition du temps légal pour s'aligner sur les autres, parce qu'il y avait aussi la dimension européenne. Mais quand même, elle voulait pas dire que la référence... Dans le texte de loi, dans le décret, ils voulaient surtout pas écrire que la référence française serait le méridien de Greenwich. Donc ils ont gardé le méridien de Paris en le décalant de 9 minutes 21 secondes, ce qui était le méridien de Greenwich, mais c'était pas écrit méridien de Greenwich dans le décret. Donc l'honneur était sauf. Voilà. Et il a fallu attendre 78, donc ça fait pas si longtemps que ça, pour que le temps légal quitte le domaine de l'astronomie en France, hein, vraiment la définition du temps légal, et soit raccordé au temps universel coordonné. Donc concrètement, à l'Observatoire de Paris, le temps légal pour la France est construit à l'Observatoire et diffusé par différents moyens. Alors comment c'est diffusé? On va le voir juste après. Aujourd'hui, ça se décline comment? Vous voyez que UTC, donc est le temps universel coordonné, c'est la référence internationale. Le seul problème, c'est que cette échelle de temps qui est construite par le Bureau international des poids et mesures, qui est pas très loin, qui est un CEF, c'est une échelle de temps papier. Comment ça marche? C'est à peu près 400 horloges qui sont situées tout autour de la Terre, qui sont intercomparées. Et à partir de toutes ces comparaisons, le BIPM construit une échelle de temps unique, qui est extrêmement stable, hein, puisqu'elle repose sur 400 horloges. Donc s'il y a même une horloge qui tombe en panne, on n'a pas le problème de continuité de la mesure. Ça, c'est important. Si on n'a qu'une seule horloge, on aurait le problème. Le seul problème, c'est que c'est une horloge papier qu'on connaît à peu près un mois après. C'est-à-dire qu'on sait un mois après quelle heure il était un mois avant, le décalage de l'heure, le décalage entre son horloge et l'UTC. Pour certaines applications, ça peut être un petit peu gênant. Et donc, tous les pays réalisent en temps réel, c'est une réalisation physique avec un signal qui peut être diffusé, comme on va voir, UTC. Donc pour la France, c'est UTC OP, hein, comme Observatoire de Paris. Et vous voyez que ce qui est représenté ici, en fonction des dates, là c'est les numéros des jours, vous voyez qu'il y a la différence entre UTC, donc qui est la réalisation papier, et toutes les réalisations en temps réel. Alors PTB, c'est l'Allemagne, NPL, l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, etc. NIST et USNO, c'est les États-Unis, et OP en bas. Et donc vous voyez que toutes ces échelles de temps, en temps réel, sont toujours intercomparées par satellite, comme on va le voir, avec des résolutions, ici, vous voyez, la nanoseconde, le milliardième de seconde, et donc on voit qu'elle reste à peu près au même niveau, à quelques nanosecondes près. Et ça, c'est important pour un certain nombre d'applications, par exemple pour le positionnement par satellite, on a besoin que les échelles de temps au niveau international restent synchronisées, par exemple, parce que c'est elles qui synchronisent les réseaux Internet et autres. Donc vous voyez qu'il y a des contraintes opérationnelles assez fortes. Donc, cette étape-là, on est presque heureux parce qu'on a des superbes horloges atomes froids, on a des échelles de temps de très très haute qualité. Le seul problème, c'est que souvent l'utilisateur, il n'est pas au labo. Et on ne peut pas prendre une horloge qui fait plusieurs mètres cubes et l'apporter facilement. Donc l'idée, c'est de diffuser, de disséminer l'information horaire. Et ça, c'est un problème qui date de l'unification de l'heure à la fin du 19e siècle. C'est comment, à un endroit, envoyer l'information de l'horloge de référence à un autre endroit. Et ça pose le problème du temps de propagation, hein, puisque le temps que ça se propage, évidemment, l'heure n'est plus la bonne. Donc, ce que je vais présenter là un peu, c'est les différentes méthodes de diffusion des échelles de temps. Donc, l'horloge parlante, ça c'est vraiment la première horloge parlante. Donc, ce que vous voyez tourner ici, alors je ne sais pas si on entend, on va l'entendre beaucoup parce que.
19h58 min 40 secondes.
Donc, ça c'est la voix de la première horloge parlante. Vous voyez, au quatrième top, il sera exactement. Donc
il sera exactement 19h59 min.
Voilà, on n'entend pas les quatre tops. Et donc cette première horloge parlante, qui était la première horloge parlante au monde, qui a été inventée, dont le développement a été demandé par Ernest Esclangon, qui était le directeur de l'observatoire en 1933, et qu'on avait assez que la ligne téléphonique de l'observatoire soit toujours occupée. Ces gens ont téléphoné pour avoir l'heure. Et donc, il a demandé une machine automatique, là, qu'on voit tourner à droite, qui a utilisé le ciné. C'était le début du cinéma parlant. Donc, l'information sonore était sur des bandes de type cinéma parlant. Et puis, depuis 1933, il y a eu plusieurs générations. Et puis, aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de disques qui tournent depuis 1991 avec celle qui opère toujours actuellement à côté. Après, vous avez les réseaux hertziens, c'est-à-dire que vous avez la capacité de piloter à distance en envoyant par des ondes hertziennes des signaux de radiopilotage. Donc ça a été fait depuis l'Observatoire de Paris. Il y a toujours, si vous allez dans la bibliothèque de l'Observatoire à côté, dans le bâtiment Perrault, vous avez toujours l'énorme antenne. C'est aussi ce qui a permis, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, de sauver la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel a servi pendant, au début de avec l'invention de la TSF, a servi à la fois à envoyer de l'information, mais des signaux horaires aux troupes françaises qui étaient à distance, qui recevaient ces signaux horaires pour synchroniser des opérations. Et donc, vous voyez que, alors, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais là, on voit vraiment les fils des antennes hein, qui allaient du sol jusqu'en haut de la Tour Eiffel. Donc, c'est vraiment l'antenne macroscopique. Et maintenant, on utilise toujours ces signaux-là. Sur des porteuses, alors ça peut être en France, sur l'émetteur de France Inter, qui est situé dans le Cher, au centre de la France, ou en Allemagne, avec une technique qui s'appelle DCF-77. Et donc ça veut dire que si vous avez une horloge qui a un petit récepteur France Inter, accessoirement vous pouvez écouter les émissions sur France Inter grandes ondes, mais en même temps synchroniser votre horloge. Donc là c'est le moment où je dis c'est l'heure de remettre les horloges à l'heure, parce que j'ai une horloge... France Inter, c'est pas mal. Hein. Voilà. Donc ça ressemble à ça. C'est une horloge alors, qui n'est pas très belle, hein, mais bon, mis à part ce détail, qui a un petit récepteur qui reçoit les grandes ondes. L'avantage des grandes ondes, c'est que ça passe à peu près partout et que ça porte à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et donc là, vous avez l'heure atomique qui est construite 100 mètres plus loin, qui est synchronisée, qui est envoyée au niveau du Cher à Louis, et qui est reçu ici. Donc c'est peut-être pas le chemin le plus court pour aller de l'observatoire à ici, mais enfin, bon, les ondes se propagent vite. Et ça, cette technique-là est relativement performante parce que ça permet, un peu comme l'horloge parlante, d'avoir quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes d'erreur entre votre horloge locale et l'horloge de référence. Sachant qu'avec Internet, vous pouvez aussi vous synchroniser. Vous pouvez synchroniser, en général, les smartphones sont synchronisés automatiquement. Vous avez l'heure atomique, vous pouvez comparer, pour ceux qui ont un smartphone, en général votre heure de smartphone ou de téléphone qui est synchronisée sur le réseau de l'opérateur, elle est aussi synchronisée parce que tous ces systèmes ont besoin d'être synchronisés sur le temps de référence. Et si on veut aller... Donc là, c'est quelques millisecondes. Vous voyez que déjà, pour le fast trading, c'est un tout petit peu limite. Si on veut aller plus loin, il faut utiliser des techniques satellitaires. Donc aujourd'hui, avec des techniques de télécom, de satellites de télécom ou de GPS, on arrive à la nanoseconde et on développe des techniques, puisque comme les horloges sont de plus en plus performantes, il faut développer des techniques de plus en plus performantes, forcément, pour pouvoir les comparer. Et aujourd'hui, on arrive à développer des techniques par des réseaux fibrés d'Internet scientifique, hein, de RENATER, des techniques de transfert de temps par laser fibré de très très haute performance. Donc ça, c'est vraiment pour la diffusion des échelles de temps. Et vous allez voir, dans toutes les applications, finalement, on a besoin d'avoir une horloge à un endroit, l'utilisateur à un autre endroit. En général, les choses ne sont pas localisées. Donc la problématique de la propagation, de la diffusion, de la transmission, n'est pas une problématique secondaire. C'est-à-dire que la référence est très importante, mais si vous avez une super horloge et que vous avez un moyen de diffusion de son heure qui est médiocre, ben, l'utilisateur, lui... il verra le résultat médiocre. Donc c'est important à garder en mémoire qu'avec l'amélioration des horloges, on doit aussi travailler sur l'amélioration des techniques de transfert de temps et de fréquence. Et ça, on le voit en particulier avec une très belle application des mesures de temps qui sont les mesures de distance. En effet, si vous prenez cette... Alors ça doit être ma deuxième formule. Non, avec E égale H nu, c'est la troisième. Qui dit que si vous supposez que vous connaissez la vitesse de la lumière, vous l'imposez par définition, ce qui est le cas aujourd'hui, la vitesse de la lumière, on dit à telle valeur, c'est une définition, et bien mesurer une durée, c'est mesurer une distance. C'est de la télémétrie toute simple. Sauf que, comme la lumière se déplace un petit peu vite, si vous faites une erreur de 1 milliardième de seconde, vous faites une erreur de 30 cm. Donc c'est gros et pas gros en même temps. Pour certaines applications, par exemple, si on veut mesurer la distance entre la Terre, enfin une station sol et un satellite, ou une station sol et la Lune, par exemple un satellite sur lequel il y a des petits coins de cube, hein, qui est représenté ici, hein, c'est un satellite passif qui va avoir un mouvement un peu bizarre parce qu'il va suivre, comme la Terre n'est pas complètement ronde, il va pas avoir un mouvement parfaitement circulaire ou elliptique, il va avoir un petit peu des vallées et des bosses. Et donc en mesurant sa distance au sol, en faisant son orbitographie, on remonte au champ de pesanteur terrestre. Donc on a beaucoup d'informations géophysiques. Et on peut faire ça avec la Lune en utilisant des petits panneaux de réflecteurs qui sont installés sur la Lune, qui ont été installés soit par des missions Apollo, soit par des missions russes, des missions automatiques, de mesurer la distance Terre-Lune avec quelques centimètres de résolution. Et ça sert à beaucoup de choses. Déjà, à avoir des informations sur le mouvement de rotation de la Terre et aussi à faire des tests du principe d'équivalence en physique. Donc ça, c'est une mesure de distance. Si maintenant vous généralisez cette mesure de distance à mesurer des distances suivant plusieurs directions, vous faites de la triangulation et vous faites du positionnement par satellite. Donc ça, c'est le principe du GPS. Vous avez un récepteur, vous avez des horloges synchronisées qui sont dans des satellites qui orbitent autour de la Terre. Toutes les horloges sont synchronisées, elles envoient des signaux qui sont datés par rapport à leur temps propre. Et vous allez recevoir ces signaux, et en mesurant, en recevant ces signaux, vous avez accès au temps mis par le rayonnement électromagnétique, c'est quelques gigahertz, pour venir du satellite à vous. Donc vous avez votre distance par rapport au satellite, et si vous faites ça avec plusieurs satellites, par triangulation, vous remontez à votre position. Alors il vous faut en général 4 satellites, parce que c'est un positionnement dans l'espace-temps, et l'espace-temps, il y a X, Y, Z et T, parce que vous n'avez pas d'horloge exacte à bord. Dans votre récepteur GPS, vous avez seulement un oscillateur à quartz, vous n'avez pas d'horloge atomique, donc vous n'avez pas le temps. Donc il faut vraiment avoir les 4 coordonnées X, Y, Z, T pour vous positionner. Et donc vous avez tous, enfin tous peut-être pas, mais utilisé une fois un GPS ou vu un GPS, où maintenant c'est même intégré dans des téléphones. Donc vraiment le degré de miniaturisation est assez impressionnant. La précision des GPS, on va dire, grand public, c'est quelques mètres, ce qui est déjà quand même pas mal. Mais si on utilise des GPS un petit peu dédiés, et en particulier si on fait du traitement de données adapté, on arrive à avoir une résolution sur la mesure du récepteur GPS au niveau centimétrique, ce qui est représenté ici, hein, où c'est des récepteurs GPS géodésiques. Et là, vous voyez le mouvement des plaques, donc c'est le mouvement des stations GPS, donc en gros le mouvement des plaques tectoniques, hein, puisque le GPS est posé sur le sol, avec une résolution, je ne sais pas si vous pouvez lire, là, la petite flèche, c'est 5 cm par an. Donc ça vous permet vraiment d'utiliser ces données-là pour faire de la géophysique et de la connaissance vraiment des déformations de la Terre. Donc c'est intéressant parce que pendant longtemps, on s'est servi de la Terre pour mesurer l'heure, pour mesurer le temps, et puis là on voit que c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que c'est grâce aux mesures de temps qu'on commence à avoir beaucoup d'informations sur les mesures d'espace et les mesures géophysiques. Alors il y a plein d'autres applications en astrophysique, pour l'interférométrie à très longue base, pour suivre les sondes qui sont dans le système solaire, avec un système qui s'appelle le DSN, pour la navigation des sondes qui vont à l'autre bout du système solaire, pour dater les pulsars. Les pulsars, c'est des sources astrophysique assez intéressante parce que c'est des sortes de phares qui tournent très très vite. Alors ceux qui sont intéressants pour la métrologie des fréquences, c'est des pulsars qu'on appelle millisecondes, donc qui font 1000 tours par seconde. Donc c'est déjà des astres, des objets qui tournent très très vite. Et donc pour dater les instants d'arrivée des pulsars, hein, c'est ce qu'on voit en bas, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de la dissipation d'énergie par le pulsar, parce qu'il rayonne sous forme électromagnétique ou sous forme gravitationnelle. Et une application, où là on pourrait passer des heures en parler tellement c'est une application vraiment du présent et d'avenir de l'utilisation des horloges atomiques de très haute performance, c'est les tests des lois fondamentales. Vous savez certainement qu'en physique, il y a vraiment une quête d'essayer d'unifier toutes les interactions, interaction électromagnétique, interaction forte, interaction faible. Et il y a un problème avec la gravitation. Donc la gravitation, c'est la relativité générale. Et il y a un problème, quelque part, pour mettre dans la même boîte théorique, dans le même cadre théorique, la gravitation, qui n'est pas quantique, et les autres théories, qui sont quantiques. Et les théories actuelles qui travaillent, essayer d'unifier tout ça, prédisent que si on fait ce travail, quelque part, on va se retrouver à violer un certain nombre de principes qui sont aujourd'hui des principes piliers de la physique actuelle, et en particulier piliers de la théorie de la relativité d'Einstein. Un de ces principes, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence, qui vous dit que si vous faites une expérience aujourd'hui à cet endroit, vous faites la même expérience à l'autre bout de l'univers dans 1 milliard d'années, vous allez trouver le même résultat en supposant que l'environnement est le même. Et les théories actuelles, justement, qui essayent d'unifier l'ensemble des interactions, prédisent une violation de ce principe d'équivalence. Et comment on va le voir avec nos horloges ? C'est que nos horloges, la fréquence de l'horloge, dépend des constantes fondamentales. Donc si les constantes dérivent, nos fréquences d'horloge vont dériver. Et donc il y a vraiment un enjeu actuel d'être le premier laboratoire qui va démontrer que les constantes fondamentales ne sont pas constantes dans le temps et qu'elles dérivent. Donc il y a vraiment une compétition assez féroce entre les laboratoires, et donc les gains d'un facteur 10 sont importants. Pareil, on dit la vitesse de la lumière est une constante. Ça, c'est, on peut le dire de façon un peu plus simpliste, en disant quelque part que la vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel, qu'elle est la même dans tous les référentiels galiléens. Vous avez certainement le souvenir que tous les référentiels galiléens sont équivalents. Ben là, c'est pareil. Un certain nombre de théories sérieuses prédisent que c'est pas vrai. Que là, par exemple, la vitesse de la lumière va être constante ou isotrope dans un référentiel, et puis isotrope dans les autres référentiels. Et vous voyez que ça pose un problème. Par exemple, si on veut faire du positionnement par GPS, ça vient. La validité du positionnement par GPS repose sur le fait que la vitesse de la lumière est constante. Donc, au niveau de précision où on est, ça va pas changer vraiment l'atterrissage des avions, je vous rassure. Mais vous voyez que derrière, au-delà, derrière juste l'aspect conceptuel, il y a quand même un aspect applicatif qui est important. Donc aujourd'hui, grâce aux horloges, on sait que les constantes fondamentales sont constantes à peu près à 10-16 par an. C'est-à-dire que si une dérive, elle est plus petite. Alors vous voyez, l'intérêt d'avoir des horloges de plus en plus performantes, c'est que la barre d'erreur, les fluctuations vont être de plus en plus petites. Et on est à peu près sûr à 10-10 près, c'est-à-dire delta C sur C est plus petit que 10-10, que la vitesse de la lumière est à peu près constante. Et donc, il y a aujourd'hui énormément de mesures et de projets, soit dans les labos, soit dans l'espace. Tout à l'heure, j'ai parlé de mettre des horloges à bord de la Station Spatiale Internationale. Ben, c'est pour tester ce genre pour faire ce genre de test de la théorie de la relativité générale. Avec évidemment l'espoir un jour de ne pas mesurer zéro. Jusqu'à présent, on mesure zéro. À chaque fois, on voit qu'il n'y a pas de dérive, que c'est constant. Et on espère justement qu'on sera parmi les premiers labos qui vont mesurer quelque chose autre que zéro, mais avec une barre d'erreur suffisamment petite pour avoir confiance dans le résultat. Voilà. Donc je pense qu'il est temps de conclure. J'espère que. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de 10-16, 10-17, 10-10. Des fois, dans les ordres de grandeur très petits ou très grands, on finit par plus se rendre compte vraiment du côté un peu exceptionnel des mesures de temps. En tous les cas, c'est aujourd'hui de très loin les plus précises. Parmi l'éventail de retombées que je vous ai présentées, vous avez vu qu'il y a de la science très fondamentale. Il y a vraiment du sociétal à fort enjeu. Les transactions bancaires, c'est quelque chose qui n'est pas scientifique, mais quand même important, en particulier aujourd'hui. Et que toutes ces révolutions, toutes ces améliorations ont été permises grâce au refroidissement d'atomes par laser, parce que ça a permis à la fois d'améliorer la précision et aussi, comme je l'ai dit, d'explorer un nouvel état de la matière. Et en fait, dans nos horloges, les atomes ne sont pas considérés comme des grains de matière, mais sont considérés comme des ondes. C'est-à-dire que dans une horloge atomique, on va prendre l'atome, qui est une onde atomique, on va la couper en deux. Donc l'atome, la mécanique quantique permet de faire plein de choses magiques. Donc elle permet ça, de prendre un atome, une onde atomique, de la couper en deux. Donc l'atome est à deux endroits en même temps. Et on va venir recombiner les deux paquets d'ondes atomiques. Donc on va faire des interférences, comme on sait très très bien faire en optique. Il y a plein d'interféromètres en optique qui ont plein de jolies applications, on fait la même chose avec des ondes atomiques. Et quand le signal que je vous ai montré, dont je vous ai parlé, là, qui est le signal, la réponse des atomes, qui est la courbe en cloche, C'était quelque chose de très simple. La vraie réponse des atomes, elle est montrée ici. Ça, c'est un signal expérimental. Et vous voyez, alors c'est peut-être pas très, très visible, mais vous voyez que c'est des franges d'interférence dans une sorte d'enveloppe de diffraction. Ça ressemble vaguement à des fentes de Young, la figure d'interférence qu'on observe avec des fentes de Young. Et ça, c'est typiquement une belle illustration que dans nos horloges atomiques, on fait de l'interférométrie atomique. Et on a fait finalement, ça c'est un domaine de recherche qui a émergé depuis 20 ans à peu près, de faire de l'interférométrie, d'utiliser de l'interférométrie atomique pour faire des mesures de très grande précision. Vous savez qu'en optique, l'interférométrie optique est utilisée pour les gyroscopes, pour les fusées, pour les avions, mais est aussi utilisée pour les Michelson, pour détecter les ondes de gravitation avec Virgo. Ben, on refait exactement, on suit la même logique des ondes, des interférences avec des ondes optiques, avec des ondes atomiques. Et aujourd'hui, on développe des horloges atomiques qui sont des interféromètres, mais d'autres architectures d'interféromètres atomiques qui permettent de mesurer très précisément la rotation, l'accélération de la pesanteur. Et ce n'est pas simplement de la science-fiction, puisqu'on a même créé une entreprise qui fabrique des gravimètres atomes froids pour la recherche pétrolière. Donc vous voyez que c'est un domaine extrêmement intéressant par le fait qu'on a vraiment un lien direct entre la science très fondamentale, l'interférométrie atomique, et l'applicatif. Et en guise de conclusion de ma conclusion, quand on parle de métrologie, souvent, on a l'impression que c'est, pendant longtemps, on a l'impression que c'est une science pas très rigolote, un petit peu poussiéreuse, avec des étalonnages sans beaucoup d'enjeux. C'est pas simplement anecdotique, hein, c'est que si, par exemple, dans une formation universitaire ou d'ingénieur, on fait un cours de métrologie, on a deux étudiants qui sont là parce qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs, ils n'avaient pas le choix. Si on parle de mesures extrêmes, de mesures ultimes, là, on a déjà bien plus d'étudiants. Vous voyez qu'il n'y a pas simplement un enjeu scientifique, il y a aussi un enjeu pédagogique. Et ça, ça s'illustre par le fait qu'autour des mesures de précision, pas uniquement du temps, et autour de l'interférométrie atomique, pour faire des mesures de précision, il y a eu énormément de récompenses. Hein, depuis Alfred de Kastler qui a inventé le pompage optique, hein, qui est utilisé dans nos horloges. Les techniques de Ramsey, la technique de Ramsey, c'est ce qui permet d'avoir les franges d'interférence. Le refroidissement laser en 97 avec Cohen Tanucci en France. La condensation de Bose-Einstein, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais le condensat de Bose-Einstein, c'est l'équivalent pour les ondes atomiques du laser pour les ondes optiques. Donc vous imaginez, pour les interférences, entre une lampe blanche et un laser, on voit la différence pour l'optique. Ben là, c'est pareil avec les ondes atomiques. Tout ce qui est spectroscopie laser de précision, celui qui a l'air tout heureux, Ted Hench, c'est lui qui a inventé le peigne de fréquence femtoseconde. C'est un dispositif exceptionnel qui vous permet, en une seule opération, de mesurer les 10 puissance 15 oscillations par seconde. De compter, parce qu'il faut se poser la question, comment je fais pour compter 10 puissance 15 oscillations en une seconde? Et ben, c'est grâce à son peigne de fréquence femtoseconde qu'on est capable de faire ça. Et plus récemment, l'année dernière, avec Serge Haroche, Dave Wineland, oniste aux États-Unis, a appliqué le contrôle et les mesures d'état quantique de façon un petit peu subtile à des horloges à ions. Et aujourd'hui, c'est l'ONIST qui a le record de précision, d'exactitude avec l'horloge à ions aluminium. Donc vous voyez que c'est un domaine extrêmement compétitif, extrêmement ouvert, hein, entre l'application et le fondamental. Et j'espère que je vous ai convaincu que c'est un domaine où on s'amuse bien aussi. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Bien, je crois que le temps ne va pas nous manquer pour des questions.
Je vous fais le cadeau d'une horloge précise à 10.20 et de la taille d'un grain de riz. Qu'est-ce que vous en faites?
Ah, ça, c'est, une...
c'est quoi votre fantasme?
Ah, c'est une... Alors déjà, j'ai beaucoup de fantasmes, hein, surtout à 10-20. Le problème, c'est déjà que dans ce fantasme, il va falloir éliminer la Terre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet dont je n'ai pas parlé, qui est un effet relativiste, qui vous dit que vous prenez deux horloges identiques, vous les décalez d'un mètre en altitude, ça vous fait une différence de fréquence de 10-16. Donc ça veut dire que si j'avais une horloge, déjà une horloge à 10-20, je ne peux rien faire. Il m'en faut deux. Bon, ça fait deux grains de riz, c'est pas très gênant. Donc je prends mes deux grains de riz à 10-20. Pour être sûr que je vais pouvoir mesurer proprement les effets relativistes, Oui, qu'il va falloir que je sois à 10-4 mètres. Je connaisse la différence du potentiel de pesanteur de l'effet relativiste avec une différence de 10-4 mètres. Donc aujourd'hui, c'est une des limitations de toutes les mesures. C'est-à-dire que même si j'avais 10-20, je ne pourrais pas l'exploiter en tant que tel. Inversement, donc ça veut dire que il faudrait que je sois capable de corriger des effets relativistes à ce niveau-là. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Inversement, si j'ai une horloge à 10-20, évidemment, pour tester la dérive des constantes fondamentales, pour justement mettre ces horloges à 10-20 dans des référentiels différents, mesurer leurs différences de fréquence, test de physique fondamentale, pour faire ce qu'on appelle, qui commence aussi à émerger, ce qu'on appelle la géodésie relativiste. Ça veut dire que vous prenez deux horloges, vous supposez qu'elles sont jumelles, vous les mettez à dans deux potentiels de gravitation différents, vous mesurez la différence de fréquence, et vous avez accès directement à la différence de potentiel gravitationnel. Il n'y a aucun instrument qui mesure le potentiel gravitationnel. Les gravimètres mesurent le champ, mais pas le potentiel. Et ça, ça peut être utile pour recaler des modèles de potentiel gravitationnel qui ne collent pas forcément quand on passe d'une région de la Terre à l'autre. Mais je pense que la première application serait les tests de physique fondamentale, parce que ça veut dire qu'une horloge à 10-20 qu'on fait fonctionner pendant un an, on est capable potentiellement de vérifier que les constantes fondamentales sont constantes à 10-20 par an, sauf que si ces deux horloges identiques, si ces deux grains de riz avec des espèces physiques identiques, elles vont dériver de la même façon. Donc on trouvera zéro. Donc je vais être encore plus demandeur, si c'est 10-20, il faut des grains de riz différents, c'est-à-dire il faut des espèces chimiques différentes, parce que si vous prenez des espèces atomiques différentes, pour une même dérive des constantes fondamentales, la dérive de fréquence va être différente. Et c'est pour ça que c'est très très important, j'ai parlé de compétition, mais c'est une sorte de compétition collaborative, parce que tous les labos développent des horloges différentes, avec des espèces différentes, des ions, des atomes dans le domaine optique, dans le domaine micro-ondes, et s'il y a une dérive des constantes fondamentales, toutes ces horloges vont dériver, mais avec une signature bien précise. C'est-à-dire que si vous comparez deux horloges avec la même espèce, vous trouvez une différence nulle, hein, puisqu'elles dérivent de la même façon, mais avec des espèces différentes, vous trouvez une vraie signature de l'effet. Donc je suis un petit peu demandeur, hein, c'est un petit peu exigeant, mais 10-20, hein, quitte à arriver.
Est-ce qu'il y a un accord entre les constantes telles qu'elles sont mesurées par l'astrophysique, par exemple, là, elles sont des constantes en fonction du temps? Enfin, en fonction de la cosmologie, plutôt, la distance, et ce qui ramène à un temps.
Alors, effectivement,
et les mesures que vous faites.
Tout à fait. Quand on veut vérifier qu'une constante fondamentale dérive, soit on fait une mesure extrêmement précise sur une petite durée, 10 ans, durée de vie de laboratoire, de manip, soit on fait une mesure sur des milliards d'années, en observant des objets cosmologiques très éloignés. Mais par contre, on n'a pas beaucoup de précision. On n'a pas beaucoup de précision, en particulier sur le fait qu'on ne sait pas trop ce que la lumière, ce qui lui est arrivé sur sa fréquence, hein, depuis l'émission jusqu'à la réception. Et donc c'est intéressant de voir, bon, évidemment, une petite compétition entre, bonne compétition entre ceux qui essayent de voir l'effet en observant très loin, ceux qui essayent de voir l'effet dans leur laboratoire en regardant les dérives de fréquence. Je pense que c'est important qu'il y ait la complémentarité entre les deux, parce que ce n'est pas les mêmes systématiques qui vont impacter une mesure instrumentale et une mesure astrophysique. L'avantage des mesures instrumentales, c'est que c'est des mesures qu'on répète, qu'on peut répéter dans différents laboratoires, changer les paramètres, il n'y a pas de paramètres ajustables. Et donc ça, c'est une force par rapport à une observation de type cosmologique qui, elle, repose un petit peu sur des paramètres ajustables. Mais en tous les cas, c'est important de confronter les deux, parce que c'est vraiment des types de mesures très complémentaires. Donc, on espère évidemment que c'est les horloges atomiques qui les premières vont.
Oui, mais si on reste sur Terre, on peut avoir aussi des tests de cohérence. Par exemple, si on utilise un atome qui... si on utilise la radioactivité, par exemple, on suppose que le taux de désintégration est resté constant sur un milliard d'années, par exemple, pour le cas de l'uranium.
Tout à fait, mais il faut être capable de le mesurer. Un taux de désexcitation mesuré à 10-16... Bon, c'est pas 10-16, que c'est des milliards d'années, donc on n'a pas besoin de la même résolution. Hein. Mais même à 10-5 ou 10-6, c'est pas simple.
Il faut 10-20 atomes, 10 puissance 20 atomes, on doit arriver à faire des choses.
Mais c'est important, en tous les cas, que un peu comme les tests, il y a d'autres batteries de tests qui essayent de vérifier qu'un kilo de plume, un kilo de plomb tombe avec la même accélération. Pas des plombs et des plumes, c'est un peu plus compliqué. C'est fait avec la Lune et la Terre, c'est fait avec des objets macroscopiques dans l'espace. Et c'est important qu'il y ait différentes voies d'accès, de tests d'un même principe. Parce qu'on n'est quand même pas à l'abri d'avoir. On l'a vu avec les neutrinos, qui allaient un petit peu plus vite que la vitesse de la lumière. On voit que ces manips de très haute précision, on n'est quand même pas à l'abri d'oublier un effet. Et donc c'est pour ça que la complémentarité est quand même une assurance du résultat.
Oui, j'ai trouvé donc très intéressante votre conférence. Et il y a une chose sur les jumeaux de Langevin. Est-ce qu'on a pu faire, avec deux horloges atomiques, une expérience du jumeau de Langevin, donc avec une horloge atomique, bien sûr, au cosmodrome, une autre horloge embarquée avec dans une fusée qui accélère et qui revient après. Et est-ce qu'on a pu mesurer très très finement ça et savoir pourquoi d'ailleurs il y a une variation du temps propre des oscillateurs ?
Il y a eu beaucoup de tests faits dans l'espace avec des horloges transportables. Alors maintenant on transporte un petit peu moins, j'espère qu'il ne va pas planter. On transporte un peu moins les horloges et on envoie les signaux par des moyens électromagnétiques, mais la première expérience qui a été faite en 71, il y a eu d'autres expériences qui ont été faites avec des masers dans des fusées, c'était vraiment de mettre des horloges, alors donc là c'est des horloges à césium, alors pas atomes froids à cette époque-là, et de les faire tourner dans des directions différentes et de tester justement la dilatation du temps. Mais la dilatation du temps, elle est concrètement testée quotidiennement avec les satellites GPS. C'est-à-dire que toutes les horloges qui sont embarquées dans des satellites qui vont à plusieurs kilomètres par seconde, hein, donc l'effet est monstrueux, l'effet est énorme, heureusement qu'il y a cette correction. Donc c'est un moyen de valider effectivement cette loi. C'est intéressant parce qu'on l'utilise pour faire les corrections. Et après, on essaye de voir si dans les résidus, c'est cohérent par rapport à ce qu'on attend. Donc c'est typiquement un peu comme le projet spatial Pharao. Pour faire les corrections d'horloge, on va supposer que la relativité est vraie, et puis on va voir s'il y a des résidus qui ne sont pas ceux qu'on attend. Et là, on pourra peut-être remettre en cause la relativité. Il y a eu beaucoup d'expériences de fait sur ce type-là. Le phénomène de dilatation, c'est simplement lié au fait que la vitesse de la lumière ne se compose pas. Elle est constante, quel que soit le référentiel par rapport auquel on va la mesurer. Donc c'est vraiment lié à cette constance de la vitesse de la lumière qui fait que, comme corollaire, le temps des horloges, quand on les compare et qu'elles sont dans des référentiels différents, on ne va plus trouver les mêmes temps.
Y a-t-il une dernière question ou une avant-dernière ?
Merci. Au début de votre exposé, vous aviez parlé de la rotation irrégulière de la Terre, bien entendu, et ça a amené à introduire la différence entre le temps atomique et le temps astronomique, où vous rajoutiez une seconde. Mais on fait toujours que rajouter une seconde. Est-ce à dire que le ralentissement de la Terre dû aux effets de marée est beaucoup plus important que les effets internes ?
Tout à fait.
Ah oui, c'est ça.
Si j'ai bien compris, il y a eu des périodes où elle accélérait, mais là, en tous les cas, depuis...
Donc on ne soustrait jamais, ça va toujours dans ce sens.
Alors, en fait, on l'a depuis les années 70, parce que c'est depuis ces années-là que QTC... Le temps atomique a été défini en 67, mais l'échelle de temps UTC date du début des années 70. Donc c'est pour ça qu'on a cette courbe seulement depuis le début des années 70. Mais là, en tous les cas, et on voit bien que c'est pas du tout régulier. Mais en tous les cas, il peut aussi y avoir un effet d'embrayage qui ferait qu'au contraire, ça peut se remettre à accélérer. Tout à fait.
Alors à propos de cette seconde qu'on ajoute, est-ce qu'il y a des hackers qui profitent de ce moment d'incertitude pour faire de la spéculation boursière sur Internet ?
Alors on s'est demandé effectivement, pendant la seconde, quelque part une seconde virtuelle, on s'est dit est-ce qu'on ne peut pas prendre quelques milliards aux îles Caïmans et et financer la recherche française avec ça, mais bon, on n'a pas
le CIRT en particulier.
Non, non, la recherche française avec plein de milliards. Non, non, mais c'est, sérieusement, par contre, c'est vrai que à chaque fois, il y a une réflexion internationale pour éliminer ces secondes intercalaires, parce que déjà, elles ne servent plus. Pourquoi ça a été mis en place? C'était pour les navigateurs. C'est-à-dire QTC était radiodiffusé. Et ça veut dire qu'un navigateur au milieu de l'Atlantique, il avait une échelle de temps qui n'était pas trop éloignée, à la seconde près, du temps qui lui donnait, qui lui permettait de mesurer une longitude. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de navigateurs qui font comme ça, ils ont tous des GPS, donc le besoin, en tous les cas maritime, n'est plus justifié. Et si on veut envoyer une fusée ou pointer un astre, on a besoin d'une précision bien plus grande que la seconde, en décalage. Et le site du service international qui s'appelle l'IERS, qui fournit justement la différence entre le temps lié à la rotation de la Terre et le temps atomique, c'est une précision de la microseconde. Donc de toute façon, les utilisateurs professionnels, eux, cette courbe-là ne leur sert pas à grand-chose. Le problème, c'est que tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'il faut éliminer cette seconde intercalaire. Après, c'est un problème, on va dire, de société, qui fait que le temps solaire va s'éloigner progressivement du temps légal. On voit qu'il va falloir attendre plusieurs centaines d'années pour avoir une heure de différence. Pour certains, c'est « Ah oui, mais il n'y aura plus le soleil à midi dans 400 ou 500 ans ». On voit très bien qu'entre Brest et Strasbourg, on n'a pas vraiment le soleil au même endroit à midi. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Et il y a un problème aussi, je pense, lié à l'histoire. En particulier, certains pays anglo-saxons, l'Angleterre, pour ne pas les citer, sont très attachés à GMT, à Greenwich. Ils pensent qu'il y a toujours une force, une sorte d'hégémonie anglo-saxonne sur la maîtrise du temps. Évidemment, de passer à UTC, de ne plus mettre les ondes intercalaires, c'est-à-dire que GMT... sera une échelle de temps qui dérive. Donc c'est intéressant de voir que là, on sort des critères purement scientifiques. C'est vraiment des critères, voire sociétaux. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que chaque fois qu'il y a une seconde intercalaire, donc 30 juin ou 31 décembre, c'est des mois et des mois de préparation, parce qu'il faut être sûr que tout... les systèmes commutent, donc il faut faire des essais. Et à chaque fois, il y a des problèmes. Donc la dernière fois, c'était en juin 2012, donc c'était la compagnie australienne, je crois, Qantas, qui a eu tous ses serveurs qui étaient en panne pendant plusieurs heures. Amazon, le site de vente par Internet Amazon, qui a été planté pendant plusieurs heures aussi. C'est extrêmement dur d'être sûr que tous les serveurs vont sauter au même moment d'une seconde.
Donc en comparaison, le bug de l'an 2000, c'était négligeable finalement.
Ben là, disons,
donc c'était mieux préparé peut-être.
Voilà, c'est un bug qui se répercute. Ben, en plus, avec la demande accrue de synchronisation, hein, puisqu'il y a de plus en plus d'échanges de données, c'est sûr que ce type de bug arrivera toujours.
Hein. Mais elle fait tous les combien là,
ben, alors en moyenne, c'est tous les ans et demi. On voit bien qu'entre ici, là, il y a une période à peu près calme. Mais en gros, la dernière était en juin 2012, et c'est pas prévu qu'il y en ait une, à ma connaissance, en décembre, fin décembre 2013, donc c'est plus qu'un an et demi. En gros, c'est 1, 2, 3 ans. Voilà, c'est l'échelle de temps. Mais par exemple, il n'y a pas de lancement de fusée les nuits de seconde intercalaire, parce qu'il y a toujours un risque qu'un ordinateur va se planter parce qu'il aura sauté d'une seconde et pas les autres. Donc, et on l'a bien vu, hein, des systèmes qui étaient mal programmés, qui changeaient d'une seconde un jour trop tôt, et les personnes appelaient à l'observatoire en disant « qu'est-ce qui se passe ? On est décalé d'une seconde par rapport à vous ». Donc on voit bien que la seconde, on a l'impression que c'est pas très très gênant, mais pour beaucoup d'applications, la seconde, c'est déjà énorme. Hein. Pour Internet, c'est au moins 1000 fois plus que ce qu'il faut pour la datation. Donc c'est vraiment énorme. Alors, les heures d'hiver et les heures d'été, c'est pas un problème. Les heures d'hiver et les heures d'été, c'est pas un problème parce que ça change pas UTC. Ça ne change pas l'échelle de temps de référence qui est UTC. UTC est continu. Et après, on ajoute un offset pour heures d'été, heures d'hiver, les décalages horaires, suivant les fuseaux horaires. Donc ça, c'est pas un problème.
Pardon, excusez-nous, mais là, on ne vous entend plus. Non, non, attendez.
La dernière seconde ajoutée, c'était quand ? C'était
dans la nuit
en juin 2012. Voilà. Ah oui, J'ai acheté mon ordinateur après.
Ah non, mais alors...
Oui, c'est...
L'ordinateur, il n'y a pas de problème, parce que vous allez là, vous allez sur la petite horloge, vous cliquez deux fois, et vous voyez que vous avez un temps Internet, et vous pouvez synchroniser... Ah, pardon, c'est à droite, vous ne le voyez pas. Vous pouvez... Alors, quand vous l'achetez, en général, il est synchronisé sur le serveur de temps du pays qui a fabriqué le... Donc, c'est souvent... Ben, pour Dell, c'est le NIST, donc qui est l'équivalent de l'observatoire et du LNE pour les États-Unis. Mais en mettant l'adresse NTP du serveur de l'Observatoire de Paris, vous pouvez vous synchroniser. Et donc, par Internet, souvent, c'est par couche. Hein, c'est-à-dire que là, c'est un serveur primaire, c'est-à-dire qui est directement relié à une horloge atomique, mais tous les systèmes électroniques, informatiques, sont synchronisés de cette façon-là.
Non, parce que vous n'avez pas dit qu'il y avait des bugs. Alors, je
veux savoir s'il y a un... En fait, quand vous avez, par exemple, votre PC, lui, il va pas sauter la seconde en temps réel. Ça veut dire qu'il va laisser passer la nuit. Ça dépend tous les combien il se synchronise. Hein. Mais en général, votre PC, à la seconde près, c'est pas gênant parce que c'est local. Les bugs, c'est quand vous échangez des informations et qu'il y a un endroit du réseau Internet qui va sauter d'une seconde et un autre endroit qui va pas sauter. Il va finir par sauter d'une seconde aussi, mais pas au même instant. C'est vraiment le synchronisme des sauts de seconde de tous les serveurs tout autour de la Terre. C'est ça qui est dur, qui doit être assuré. Ah non, non, pour la vie des êtres humains, ça se voit pas trop. Hein. Alors, l'heure du CIRT, c'est l'heure, comme vous l'avez dit, c'est l'heure du CIRT, et ça vous donne ce qu'on fournit, c'est soit on synchronise votre horloge distante, et on mesure la différence de temps pour synchroniser votre horloge distante, soit on ne la synchronise pas, et votre horloge locale, elle continue sa vie, hein, elle donne son temps, mais on vous donne la différence de temps entre votre horloge locale et l'horloge de référence. Le seul problème de faire ça par Internet, c'est que vous avez le temps de propagation. Donc les protocoles NTP, c'est des protocoles qui sont à deux voies, qui font aller-retour, en principe, pour s'affranchir de ça. Le seul problème d'Internet, c'est qu'on ne sait pas par où ça passe. Donc ça passe par un endroit à l'aller, par un autre endroit au retour, et plus vous êtes loin du serveur sur lequel vous synchronisez, plus l'erreur va être importante, parce que la dissymétrie entre l'aller et le retour va être plus importante. C'est pour ça qu'on ne s'engage pas, vous verrez hein, sur le site, on ne s'engage jamais à dire quelle est la précision de la synchronisation à distance. On peut pas. L'horloge parlante, on pouvait dire c'est à peu près 50 millisecondes sur des lignes analogiques. Maintenant, si vous appelez l'horloge parlante en passant par des lignes numériques, il n'y a plus aucun engagement. Donc on est en train de développer justement des techniques où à la fois il y a une certification quelque part du retard entre l'horloge de l'utilisateur et l'horloge distante. Et pour les transactions bancaires, c'est important. Ce n'est pas tellement la précision qui est importante, c'est le raccordement.
Et l'horloge distante, c'est quel temps? Elle donne le temps de l'horloge?
Alors l'horloge du CIRT, elle fournit l'échelle de temps qui s'appelle, qui est une réalisation de UTC qu'on appelle UTCOP. Sauf qu'après, il faut rajouter les heures pour être... C'est l'UTC local, tout à fait.
Pas local. Pourquoi local? Non, enfin, local, l'UTC, par définition, c'est...
Enfin, quand je dis local, c'est-à-dire qui est réalisé localement.
Voilà.
Tout à fait. Non, mais ça veut dire que vous, quand vous recevez l'UTC... Quand je dis local, ça veut dire que quand vous recevez l'UTC là où il est l'utilisateur, en général, il n'y a pas de correction relativiste. Il y a, si on peut, des corrections de propagation hein, liées à la durée de propagation du signal. Mais quand je disais local, c'était qu'on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas d'effet relativiste qui a changé entre l'émission ici, l'endroit où il y a la référence, et l'endroit où il y a l'utilisateur. C'était dans ce sens-là, je disais local.
Merci. Bon, alors une dernière question.
Au début, vous avez montré un graphe, vous faisiez une moyenne de 400 sites qui donnaient l'heure, et le bureau à Sèvres fait une sorte de moyenne. Il y a des courbes vous avez fait montrer des courbes, est-ce que ces courbes se répètent ou est-ce qu'il y a une origine à ces différences que l'on peut comprendre
des effets de... les 400 horloges qui sont utilisées par le BIPM pour construire le temps atomique international, en fait, ce n'est pas celle qu'on voit ici. C'est-à-dire que celles qu'on voit ici sont indépendantes de celles qui contribuent au temps atomique international et à UTC. Ça, ce sont juste des horloges qui sont localisées dans les laboratoires. Et en gros, il y a un laboratoire par pays qui réalise le temps de référence pour le pays considéré. Et ce qu'on fait a posteriori, c'est qu'on compare... j'arrive plus à trouver mon curseur. On compare l'UTC... Oups. On compare l'UTC réalisé en temps réel par l'observatoire ou par l'établissement considéré. On le compare à la réalisation d'UTC par le BIPM. Donc l'UTC qui est construit par le BIPM est une échelle de temps papier. Et on sait un mois après que notre UTC temps réel était décalé.
Mais on voit les variations qui se...
Alors,
c'est pas vraiment aléatoire, on dirait.
Cette courbe-là, en fait, ah non, c'est pas complètement aléatoire, il y a des effets saisonniers.
Voilà, c'est ça.
Ça peut être des effets dus aux horloges, ça peut être des effets, par exemple, les effets qu'on voit ici, là, c'est des effets souvent qui peuvent être diurnes, nocturnes. Donc, ça peut être des effets liés au transfert, simplement. Parce qu'on transfère les comparaisons d'horloges. Toutes ces comparaisons sont faites via des satellites. Donc ça peut être simplement des effets d'antenne. Et donc il y a tout un travail pour savoir si ça vient des horloges ou pas. Quand même, là, juste pour montrer, le rouge, c'est UTC moins UTCOP. Donc c'était le temps français. Donc on voit jusqu'à cette époque qui était octobre 2012, on voit qu'avant, ça bougeait beaucoup. Et la différence entre avant et après, c'est qu'après... on a utilisé des horloges à atomes froids pour piloter le temps français. Et on voit que grâce aux horloges à atomes froids, les fluctuations ont quasi disparu, hein, puisque le temps français après est vraiment quasiment à zéro. Donc cette courbe-là, elle montre aussi que la qualité de l'horloge, même pour réaliser un temps, on va dire, opérationnel, qui n'est pas forcément un temps scientifique, la qualité de l'horloge est très importante.
Et donc tous les autres vont s'aligner, utiliser le même type d'horloge.
Alors tous les autres vont s'aligner. Il y a des pays qui... On a la chance d'être dans un pays qui met des moyens pour réaliser des superbes horloges à atomes froids. Il y a plein de pays qui décident de ne pas mettre ces moyens-là. Et donc, en particulier des petits pays qui ne peuvent pas acheter des très, très grosses horloges atomiques. Et ce que font ces pays, c'est qu'ils prennent une horloge atomique de basse performance et ils asservissent le temps de l'horloge sur le temps du GPS. Parce que le temps du GPS n'est pas très loin du TC. Donc localement, ils ont une très bonne échelle de temps, mais ils sont évidemment pas autonomes, ils dépendent du fonctionnement de GPS. Donc c'est un choix entre performance et autonomie.
Donc il y a des bons élèves et des mauvais élèves quand même, enfin, ou des pas très très bons.
Oui, voilà. On peut le dire comme ça.
Voilà. Bon, bah, écoutez, merci encore pour cette
merci à vous.
Magnifique exposé.